Raymond, oh my God! Oui, je dis toujours oh my God.
Tout à fait.
Parce que ça a l'air d'être ma marque de commerce.
C'est parfait.
C'est parfait. Comment ça va?
Et ça va bien, Sabine, et toi?
Ça va bien. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Vraiment, c'est super beau. Je suis comme une petite enfant là, qui capote.
Okay.
Fait que pendant 5 minutes, tu vas me voir comme « Ok, t'es énervée la petite? » Mais après, je vais me calmer.
Bon, parfait.
Okay. Mais oui, je vais commencer. Mais j'ai une question. Vraiment, ma première question, c'est t'as fait le tremplin, la transition entre le monde de la lutte et le monde de la politique municipale pour ensuite, tu sais, revenir un petit peu à la lutte tout en jonglant ta vie de conseiller municipal. Comment tu fais? D'où c'est parti? Avais-tu toujours une passion politique?
Pas du tout. Au contraire, je pense un peu comme tout le monde, on a un certain intérêt dans la politique, mais je n'avais pas de passion avec ça. Ma transition pour venir en politique, finalement, c'est comique. C'est parce que j'avais eu un dossier avec la municipalité qui était difficile, je trouvais, à gérer. En tant que citoyen, je trouvais que c'était difficile d'obtenir les bonnes réponses et tu te fais toujours envoyer à gauche, à droite, va voir ce service-là, t'arrives là, mais là, ils règlent une partie du problème, tu t'en vas ailleurs. Finalement, j'avais trouvé ça très compliqué. Et ça m'avait amené à mon modèle, puis même, je veux dire, ça a été même plus que compliqué. Je veux dire, c'était même venu que, bon, il y avait des avocats là-dedans et tout ça. Là, je me suis dit, là, pas. Puis j'étais complètement correct dans mon affaire. Et puis la municipalité, à ce moment-là, se retrouvait un peu avec une patate chaude. Ils ne savaient pas comment gérer ça, parce que là, il y a des gens qui disent « Ah, on sait bien, M. Rougeau, vous avez permis ça, parce que lui, il a de l'argent, il vous a acheté, c'est quoi? » Eux, là, politiquement, on a l'air fous. Écoute, il faut qu'on fasse quelque chose, mais techniquement, on lui a donné le permis, puis il est dans son droit de le faire.
Mm-hmm.
Tout le monde était mal placé. Alors, ça a duré 2 ans, cette affaire-là. Et puis, entre-temps, moi, ma carrière de lutteur était terminée. J'étais devenu commentateur pour la WWE de 1989 à 2002. Moi, mon problème, mon litige, si tu veux, avec la municipalité, c'était en 2000. Et puis, ça a traîné. Et puis, en 2002, c'était toujours pas réglé. Mmh. Ça fait que... Puis, j'avais même le maire à l'époque qui était venu me voir. Puis, il me dit, je vous cassez-vous pas la tête. Et il dit, regarde, on a juste posé quelques gestes pour montrer à des gens, regarde, on fait quelque chose. Il n'y en a pas de problème, c'est beau, puis bravo, puis etc. En arrière, c'est pas ça qui se passait.
Okay.
Fait que, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que le pauvre citoyen qui se retrouve, on prend un monsieur, madame, tout le monde, qui ont un emploi plus modeste, qui ont des enfants, ils ont une famille, qui se retrouvent dans une situation comme ça, malgré eux, ça peut détruire des vies, ça-là. Fait que je me suis dit, puis en même temps, j'avais une dent contre la politique municipale à ce moment-là. Et puis, drôle d'adon, en février 2002, j'ai tout arrêté. En fait, le contrat qu'on avait en France était terminé et tout ça. Je faisais plus de commentaires. Fait que là, j'étais complètement retraité.
Mm-hmm.
À l'été 2002, j'ai été approché par une dame qui est devenue la mairesse de Radon pour faire partie de son équipe en tant que conseiller municipal. Elle était déjà conseillère depuis 7 ans, mais là, elle se présentait à la mairie contre le maire en place. Elle m'approche avec ça, puis ça me tentait pas vraiment. Puis je me souviens la journée qu'elle a voulu me rencontrer. Mon père m'avait dit ça. C'était le gérant d'épicerie à Radon qui a déjà été maire, qui avait parlé de moi, etc. Et puis là, elle s'est dit, lui, elle avait suggéré, pourquoi tu ne vas pas voir Raymond Rougeau? Ah, elle a dit à ce moment-là, je peux quasiment pas. Écoute, il y a un litige avec la municipalité, puis là, si je te prends dans mon équipe, ça donne la place, si tu veux, aller le bout. Ah, bon, mais là, ben, c'est ça, regarde, bon. Fait que, bref, il dit, va le rencontrer. Fait que, elle était d'accord, elle m'a appelé, puis elle a voulu me rencontrer. Bon, moi, j'étais un peu méfiant, j'ai aucun intérêt, puis j'ai accepté, sauf à mon père, pourquoi je voudrais me présenter? Je veux pas m'associer à du monde comme ça. Il dit, Raymond, ils sont pas tous pareils. Alors, lui m'a convaincu de la rencontrer.
OK.
Fait qu'elle est venue ici. Mon père était là, elle était avec aussi l'ancien maire. Là, j'ai dit, fait qu'elle m'a approché, puis j'ai dit, garde, moi, il y a une chose, j'ai dit, avant qu'on se parle de n'importe quoi, je vais te parler de mon dossier. Ben, justement, elle voulait t'en parler aussi.
Ah ben.
Elle dit, moi, j'ai une question pour toi. parce qu'elle était conseillère municipale.
Ah, oh, ouais.
Elle dit, avais-tu un permis quand tu as commencé tes travaux? J'ai dit, vous êtes sérieuse là, quand vous me posez ça? Elle dit, oui. J'ai dit, viens avec moi. Là, mon bureau était en bas à ce moment-là. Je l'ai emmené en bas. J'ai sorti mon dossier qui était à peu près un pouce et demi d'épais. Elle dit, mon Dieu, ce qu'elle avait vu à la municipalité, là, c'était à peu près un quart de pouce. L'inspecteur urbaniste à ce moment-là sélectionnait. C'est lui qui m'avait émis le permis. C'est lui qui était un peu comme coincé. Fait qu'il jouait la game. Lui, il disait au conseil, M. Rougeau ne veut pas coopérer du tout, il ne veut rien faire. Moi, j'arrêtais pas de leur dire, dites-moi ce que vous voulez comme collectif, je vais le faire, on arrête.
Ah ouais.
Mais lui, il disait, M. Rougeau ne veut pas coopérer. Le conseil, il y avait un son de cloche. Et moi, de mon côté, l'inspecteur, il venait pas, je comprends pas pourquoi il s'acharne sur vous comme ça. Ah. Fait qu'il était un peu entre les deux. C'est de là que ça a pris une tournure qui était négative. Alors là, j'ai sorti mon dossier. J'ai ouvert la première page, là, c'était le permis qui avait été émis. J'avais la première facture de l'entrepreneur qui était venu faire les travaux. Et puis, parce que c'était des travaux en bas de riveraine.
OK.
Ça fait que là, j'ai monté, regarde, premier coup de pelle. Le permis avait été émis, je crois que c'est le 25 ou le 26 juin 2000. La première facture, c'est marqué la première fois que l'appel est venu ici, c'était deux semaines plus tard. Alors, elle dit, merci, elle dit, c'est juste ça que je voulais voir. Ce qui avait circulé, c'est que moi, j'avais commencé des travaux sans permis, je ne coopérais pas, je ne faisais pas rien, tu sais, que bon.
Ah!
Sa question, avais-tu un permis de commencer? J'ai montré ça, elle dit, c'est beau, j'ai vu ce que je voulais voir. Fait que, puis j'ai dit, vous n'étiez pas au courant de ça, vous? Elle dit, non. Ben, j'ai dit, c'est pour ça que, finalement, je sais, si je m'implique en politique, c'est parce que je veux pas des gens vivent des choses comme ça. Fait que je me suis présenté dans cette optique-là. Et puis, j'étais élu en 2002.
Yay!
La passion n'était pas encore là.
Ouais.
Sauf que, parce que j'y allais avec, je me suis impliqué, je vais voir ce que c'est. Puis en même temps, j'y allais avec une cause pour essayer de corriger des injustices. Puis après ça, j'en ai vu d'autres cas comme moi qui ont eu lieu. Puis j'ai pu aider pour régler ces dossiers-là. Puis finalement, on était quand même pris avec cet inspecteur-là. Puis il y avait même un moment donné quand la mairesse, quand on était élu, puis la mairesse, elle a distribué les comités qui étaient pour être comme les ministres. J'ai demandé, j'aimerais ça être sur le comité consultatif d'urbanisme. Parce que lui, c'est le directeur d'urbanisme. J'ai dit, j'aimerais être sur ce comité-là. Elle a parti à rire, elle a dit, Raymond, elle dit, je voudrais bien, il m'a dit, pas pour l'instant. Au début, c'était comme j'ai dit, j'avais un petit crotte sur le cœur, la façon de faire. Après d'être impliqué, la passion a grandi. Et je me suis retrouvé en 2009, ça faisait 7 ans, j'étais conseiller, il y a eu une élection. Tu sais, à un moment donné, il y a des vagues qui passent. Il y a eu une vague. Et puis, toute l'équipe a été débarquée, sauf moi. J'ai été le seul qui a été réélu. Et puis, on s'est retrouvé avec un conseil qui était très hostile, un maire qui était très hostile. J'ai été pendant 4 ans le conseiller à l'opposition. C'était la guerre. Écoute, on faisait les journaux tous les mois lors des séances, les prises de bec entre le maire et moi. Lui, c'était un avocat qui ne se gênait pas pour déformer, même pour raconter toujours la vérité, cacher tout ça. Et je le dénonçais, mais appuyé avec des documents publiquement, mais ça faisait des chicanes tout le temps. Ça a été une expérience très grandissante quand même, parce que ce que je me suis dit après, j'ai appris plus dans ces 4 ans à l'opposition que les 7 ans auparavant. Parce que les 7 ans auparavant, c'était toute notre équipe. Je faisais confiance à la mairesse, avec raison, notre directeur général, notre conseil. Tu te retrouves avec toute une équipe hostile qui ne souhaiterait pas mieux que de te faire démissionner. D'ailleurs, le soir d'élection, ça criait tout. On va le faire démissionner. Puis il y a des gens qui me disaient, Raymond, ça va être l'enfer. Pendant 4 ans, tu peux obligé de rester là. Tu peux démissionner. J'ai dit non, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. J'ai fait mon 4 ans. Le maire m'avait dit au bout de 2 ans, il dit, moi, je suis ici pour les 8 prochaines années. Et je suis ici pour 2 mandats, mais je ne dis pas chez mon voisin. Puis en 2013, on s'est monté une équipe, on est allé contre. Ils ont tous été débarqués, c'est notre équipe. Mais dès là, en 2013, tout le monde voulait que je me présente à la mairie. Et puis, écoute, j'avais des appels de partout, dans la province, les gens voulaient que je me présente à la mairie, parce qu'ils savaient que je pouvais débarquer ce matin.
C'est ça.
Mais je n'avais pas ces aspirations-là. Fait que moi, je suis le maire suppléant.
Okay.
J'ai accepté. Parce que celui que j'ai proposé à la mairie, il avait été conseiller avec moi les sept premières années.
Okay.
Lui, il a toujours des aspirations à la mairie. Ça fait que je l'ai proposé. Fait que quand il dit Raymond, il dit oui, j'aimerais ça, mais il a une condition. Il dit que tu acceptes d'être mon promaire. Fait que j'ai besoin de toi, mais ça va me faire plaisir. Fait que comme promaire, je suis très impliqué. J'ai été 1h30 ce matin encore à l'hôtel de ville. J'ai fait le gym, pas sur l'hôtel de ville. Ma routine, c'est ça. Faut ça, je planifie le reste de ma journée.
Ben oui.
Mais je suis impliqué dans toutes les décisions, dans les dossiers, dans les grosses discussions et tout. Quand le maire est à l'extérieur, comme cet été, il est parti 3 semaines en Europe, c'est moi qui agissais en tant que maire à ce moment-là. Fait que je suis très impliqué et j'adore ça.
C'est ça.
Fait que même des gens me parlent en 21, vas-tu te représenter? Ça va faire 19 ans, je conseille. Oh. Je dis pas non, je dis pas oui. Il reste encore 3 ans. Ça fait juste une année qu'il a été réélu encore.
C'est ça. Dans le
mandat. Ouais, on va faire notre mandat.
C'est ça.
Mais je ne mets pas une croix là-dessus. J'ai vraiment la passion, j'adore ça.
Fait. Là, maintenant, tu as la passion.
Oui.
Puis les citoyens, ils le sentent aussi.
Aussi. Ben oui, dans mon district. Je suis dans le même district depuis 2002. J'ai été réélu 5 fois par mes co-citoyens. Et puis, je suis toujours celui qui est rentré le plus fort dans tous les conseillers, puis avec le plus de pourcentage de vote. Mm-hmm. Pour vous dire, en 82, on était 3 équipes. J'ai eu 81,2% des votes. Puis les 2 autres candidats, qui étaient 3 candidats, il restait 18,8% à se diviser entre les deux. Fait que je chantais 81,2%. Puis aux dernières élections, je suis rentré encore le plus fort de n'importe qui à mon 5e mandat.
Wow! Fait
que c'est ça, pour moi, là, c'est tellement gratifiant.
Oui, oui.
Parce que c'est notre bulletin, hein, tous les 4 ans.
Ben, c'est ça.
Si les gens n'appréciaient pas ce que je faisais en tant que conseiller, si les gens ne disent pas, ils ne défendent pas nos droits, c'est où, ils ne défendent pas nos intérêts, c'est, on va changer de personne.
Ben, c'est ça.
Puis en 2009, quand j'étais le seul, alors qu'il y avait toute une vague, c'était merci à tout le monde.
Waouh! Oh, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Mais tu vois, c'est un trait de personnalité que tu as toujours eu, même dans le monde de la lutte.
Je suis un battant.
Depuis que je suis petite, tu es un battant.
Oui, toujours. Quand il y a toute la gang, comme je te dis, tous les conseillers étaient contre moi et le maire, puis il s'arrangeait qu'il y ait des amis dans la salle pour poser des questions directement au conseiller Rougeau. Puis là, c'était constamment pour me narguer. Fait que j'étais seul dans un environnement très hostile pendant 4 ans, sans arrêt. J'ai jamais bronché, jamais... Ça fait partie de ma personnalité.
Oui, c'est un bâton. Oui. Ça, j'aime bien.
Ah!
J'ai une question, pas une question, mais... Non, tu vas dire, waouh, elle fait un 180.
Ah non, c'est bon.
T'es un fan de boxe.
Oui.
Si t'avais à choisir un boxeur, là, que t'aurais pu avoir un combat, là, on planifie un pay-per-view, là, Vegas ou Montréal, où tu veux?
Moi, je suis sur Montréal.
Ouais, quand même.
J'aimais Montréal.
Bon, ouais. Forum, il me semblait. L'ancien forum, OK.
Parfait. J'ai un nom en tête. Quand tu m'as posé la question, j'ai un nom. C'est sûr qu'on n'était pas dans la même catégorie, là.
Mais non, mais c'est
sauf que, tu veux un boxeur, ça? Roberto Duran.
Oh!
Ça aurait été Roberto Duran.
C'est...
Quand tu me poses la question, il y a un visage qui vient dans la tête, c'est Roberto Duran.
Et pourquoi?
Je l'ai regardé boxer dans les années 70, alors qu'il était dans les 135 livres, contre Esteban de Jesus. C'est contre, dans ces temps-là, il était comme un surhomme.
Ouais, puis
quand il était venu au stade olympique, il avait boxé contre Sugar Ray Leonard, j'étais sur place. En 76, c'est quelques années après les Olympiques. Peut-être 1980 qu'il avait boxé. En tout cas, Duran Leonard au stade olympique à Montréal, Duran avait battu Leonard par décision. 15 rondes avait battu par décision Sugar Ray Leonard. Puis Leonard avait monté aux 147 livres pour se battre contre Leonard. Puis Leonard, c'était une machine. Là. C'était... Bon, ben, il n'y a personne qui... On dit qu'il donnait grande chance à Duran parce que Duran, c'est un naturel 135. Leonard, c'est un 147. Déjà, dans la boxe 12 livres de différence, c'est une grosse différence. Duran a monté pour aller se battre avec Leonard. Là. Puis Leonard, comme on dit, il était là, au sommet de sa forme. Fait que moi-même, vous avez les chances. Ça va être difficile. Ce soir-là, écoute, il y avait le numéro, il y a eu la bonne stratégie. Fait que c'était comme, wow. C'est sûr qu'ils ont eu les combats retour, parce que no mas, on s'est essayé tous. Quand même, je veux pas crucifier toute sa carrière pour la fin de sa carrière.
C'est ça, non. Mais au pic.
Moi, je me suis dit, dans son apogée, des années 70, puis quand c'est battu avec Leonard, ouais, Robert Aldrin, c'était un battant, c'était dur. Ça, j'aurais aimé ça.
Oh, ça aurait été tout un combat. Ouais,
j'aurais aimé ça.
Ah, ben, je vais noter ça.
Ouais.
Es-tu encore en vie? Non?
Oui.
Ok, oui. Oui. Ok, ah, ouais. Cool.
Il est plus lourd, il est rendu à 200 quelques livres.
Ah,
ouais,
c'est ça.
Ben,
mais là, oui.
Il se battait à 135, 147 à la fin, il est rendu à 200 quelques livres.
Là. Bon, ben, on va laisser faire le combat, là.
Maintenant, ouais,
non, non. Laisser,
moi-même, même à mon âge, là, on va laisser faire.
Fait que, Ray, je vais faire un petit retour en arrière avec toi.
Oui.
Quand j'étais petite,
oui.
Je suis née en 83.
Okay.
Okay. Mon frère m'a toujours parlé, tu sais, de manière obsessive.
Oui.
Le fameux massacre de la Saint-Jean-Baptiste.
Oui. Ça, c'était au Forum de Montréal avec les frères Garvin.
Exactement. Oui. Là, il dit, Sabine, il faut qu'on parle. Oui, oui, je sais, oui. Je sais. Je vais parler à, comme un des principaux oui. acteurs. La foule était en délire.
C'était fou. C'était
le storyline
oui.
était simple, mais parfait.
Oui, oui. Oui. Ah oui, c'était...
Il faut que tu m'en parles, là.
Mais quand... Les gens, quand des gens me parlent aujourd'hui, parce que c'est certain qu'à l'occasion, quelqu'un va me poser, dans toute ta carrière, y a-t-il un combat qui ressort plus que les autres? Sans équivoque, c'est celui-là.
Oui.
Il y avait quelque chose de magique.
C'est ça.
Il y avait... Pas le soir du massacre de Saint-Valentin, c'est le combat retour qui a eu un mois plus tard.
Au
oui. C'est que quand on est arrivé au forum... C'était tellement intense. On a refusé du monde ce soir-là. Je pense qu'il y avait 5000 personnes dans la rue qui n'ont pas pu rentrer.
Ouais.
C'était plein dans le forum. Quand on est entré, ça a explosé tellement fort que le son distorsionnait dans mes oreilles. Je rentrais, puis, tu sais, comme un haut-parleur, tu montes le son, boum, il distorsionne. Tu sais, tu n'as plus de son, tu baisses, OK. Mais ça distorsionnait dans les oreilles. Fait que, mais ça, je l'entendais, ça m'a fait comme « wow ». Mais après ça, j'étais juste focussé sur mon match.
Oh, ouais.
Mais l'intensité, j'ai jamais vécu une telle intensité dans un combat. Puis du début à la fin, ça n'a jamais arrêté. Ça a parti, puis ça a été... Le monstre était debout, ça ne s'est jamais assis. On va dire c'est parti. Tu sais, des fois, un match va partir, puis ça part, puis ça monte, puis ça
c'est
monte.
Ça.
Puis ça fait « bang ». Dans le tapis, ça a resté là, jusqu'à la fin.
Oh, ouais.
C'est le combat le plus intense, le plus beau souvenir, le plus intense, le plus tout, c'est celui-là.
Ben oui!
Puis comme je te dis, je me suis encore... Aujourd'hui, je fais de la couffaine dans une oreille.
Oh.
Tu sais, ça cille tout le temps. Écoute, ça partit un coussin, puis j'étais à la pêche, puis il me lève un matin, ça cille. En tout cas. Mais ils m'ont dit, il y a des moments dans ta vie, tu as peut-être eu des... Je fais de la chasse, tu fais de la carabine, tu fais beaucoup d'avions... aussi sans écouteurs.
Mm-hmm.
Mais ce soir-là, j'ai dit ça, je pense que tu un petit peu.
Peut-être que c'était ça en 85-24, ce soir.
Ouais, ça a peut-être aidé un petit peu.
Ça a peut-être aidé.
Mais c'était fou.
Ben oui, mais moi, il me parlait, il y avait la gérante des
Garvin. Precious.
Precious.
Elle s'appelait Precious.
Ah, ben Precious. Elle a comme aspergé du parfum à ton confrère.
Mon frère.
OK. Puis là, mon frère était là. Il avait 8 ans ou 7 ans. Puis il était comme, oh my God. Il ne pouvait pas dire le mot B, mais comme, pas une bonne personne.
Ouais.
Puis là, les frères Garvin ont attaqué ton père. Ton père a embarqué.
Oui, oui.
Non, là, tu sais, c'est comme...
Ah non, c'était fou, là. Puis, c'est ça. Ce soir-là, c'était quand le monde avait tous la mâchoire qui était pendante.
Ben,
c'était... Puis c'est là, quand il y a eu le match retour, c'était là tellement fort. Puis mon père était là aussi, assis au ringside.
OK.
Il était, on l'a amené, il était assis là. Puis on embarque, ça a parti, là, 100 000 à l'heure. Puis dans le tapis. Tu sais, c'était fou.
Mais pour moi, là, ça, c'est un vrai storyline de lutte.
Ouais.
Je ne veux pas comparer à maintenant.
Non. Le sport a évolué.
A évolué.
Mais à cette époque-là, ce qui est... Je crois que c'était le summum. Et d'ailleurs, on a fait plusieurs combats en province contre les Garvin.
Okay, oui.
Juste ce match-là, mais ça avait été filmé aussi. À travers l'Australie, c'était plus territorial.
Oui.
Fait qu'on était dans la province. Écoute, on allait, exemple, au centre Georges-Vézina, Chicoutimi. au lieu de Montégarvin, c'était à guichet fermé. On est allé à Val-d'Or, c'était à guichet fermé. À Hull, à Québec. Tu sais, juste le fait, les Rougeaux, les Garvin, c'était pouf, c'était parti. Puis l'intensité, c'était là partout. C'est quelque chose, puis c'est drôle parce que il y a des fois, tu vas travailler fort pour essayer de monter un storyline pour dire, regarde, on va prendre exemple, les Rougeaux, les Garvin, ça serait bon, en tout cas, ça devrait faire une belle rivalité. On va essayer de monter quelque chose, que ce soit attirant, puis ça floppe, puis ça fait rien. Ou bien, ça réussit, mais aux trois quarts, tu sais. C'était même pas planifié qu'on était ensemble, c'était un add-on. Les Garvin ne devaient même pas être au Québec. Les autres, en fait, ils ne s'étaient même pas parlé quand ils sont venus au Québec. L'histoire était que Jimmy Garvin, lui, sa femme, elle venait de North Bay, dans ce coin-là. Okay. Il voulait venir passer un été au Québec. Là. Puis il avait appelé Gino Brito, qui était promoteur à ce moment-là. Mm-hmm. Puis il disait, Gino, je veux venir passer l'été au Québec. J'aimerais ça lutter un petit peu. Tu sais, bon, fait que, OK, je t'arrange une main. Ça reste comme ça. Ronnie Garvin, de son côté, ça a donné dans sa carrière. Lui, il est d'origine québécois. Oh. Il vient au monde en Gaspésie. Puis ses parents, après ça, ils ont déménagé à Montréal quand il était jeune.
Okay.
Lui, il a quitté sur la route, je pense qu'il avait 15 ou 16 ans.
Oh.
Puis il est parti, puis il est resté aux États-Unis, il fait toute sa carrière. Sauf que le Québécois d'origine, hein, il reste un frère qui est encore vivant au Québec.
Okay.
Fait que lui, cette année-là, par hasard, il s'est dit, j'aimerais ça de passer l'été au Québec. Puis je vais voir mes parents un peu, ses parents vieillissaient, puis tout ça. Il a appelé Gino Brito, puis là, il dit, je vais être au Québec. Fait que, puis les deux, c'était même pas parlé là. En même temps, Jimmy Garvin avait appelé, ça a donné comme ça, Ronnie Garvin appelle. Puis eux autres, ils ont dit, crème, si on mettait des Garvin ensemble, ça pourrait être intéressant avec les Rougeaux. Puis,
mm-hmm.
puis là, ils ont dit, hey, on pourrait faire de quoi avec ça, les Rougeaux. Oui, oui, c'est correct. On ne s'attendait jamais à quelque chose. Puis on est arrivé avec ça, puis ça a explosé. Fait que lui-même, il parle aujourd'hui. Parce qu'on est devenus des bons amis.
Ah oh, oui! Ouais. Ah, qui aurait cru!
Oui, mais ben, on ne se connaissait pas à ce moment-là.
C'est ça.
Par après, je te dirais, écoute, nous, c'est en 84-85. Et puis, en 86, nous, mon frère et moi, on a commencé à WWE.
Oui.
Puis, l'automne 87, Ronnie Garvin, il est venu à WWE. Puis, c'est là qu'on a appris à se connaître. On s'était juste connus sur le ring ici. On se parlait pas, on se fréquentait pas, on se connaissait pas. À la WWE, mais il parlait français. Puis pour nous, c'était toujours le fun de parler français.
Ben oui, c'est ça.
Quand il est arrivé, bon, on s'est connu. Tu sais quoi, on s'est rendu compte qu'on a plein de choses en commun. C'est un chasseur. C'est un pêcheur. Il est pilote d'avion. On est des lutteurs. On était comme... Fait que là, on partageait nos intérêts. Fait que rendu à la WWE, lui, il avait un avion, un bimoteur. Puis à l'occasion, nous, on était toujours dans des jets. Puis à un moment donné, là, il s'attend et il dit, regarde, moi, les billets d'avion que j'avais de la WWE, j'y donne.
Mm-hmm.
Lui, il les encaisse à la WWE, il se fait payer. Fait que ça payait ses dépenses d'avion. On voyageait avec son avion. Moi, je suis monté à Minneapolis. Okay. Puis moi, j'étais comme copilote. Fait qu'on était tous les deux. J'ai même piloté son avion. Je faisais de la radio, je faisais des choses. On est allé à Kansas City, on est allé à Nouvelle-Orléans, on est allé un peu partout. Fait que, wow. On est devenus des bons amis. Après ça, après la WWE, il est venu au Québec, il est venu en chasse à l'Orignal. Fait que moi, je l'ai monté, puis j'étais avec mon partner de chasse. Lui, il était monté avec un ami. Je les ai montés en avion, je les ai débarqués sur un lac, pas loin de nous, peut-être à 30 km de nous. Ils s'étaient montés là, ils ont passé deux semaines, chasse à l'occasion, je venais en avion, je venais, tout était correct. Puis l'amitié a grandi comme ça. Mm-hmm. D'ailleurs, cet été, il est venu passer 4 jours ici, au mois d'août. Il est venu passer 4 jours. Tous les ans, il vient passer quelques jours ici à l'été.
Okay.
Puis nous, à l'hiver, j'étais sans doute jouer en Floride, on arrêtait. Lui, il restait à Charlotte, en Caroline
du Nord. OK, ben oui.
On passait par Charlotte. Passait 3-4 jours en descendant. Je passais une couple de semaines en Floride. Puis on montait un autre 3-4 jours. On est devenus de grands amis après. C'est comique.
C'est vraiment comique.
Ouais. Okay. Puis c'est comique. Des fois, les gens me demandent, y a-tu des lutteurs avec lesquels tu entretiens encore des relations, des amitiés, ou tu es en contact? Non, Ronnie Garvin.
Le nom, c'est ça. Ouais.
Mais c'est le seul.
C'est le seul?
Ouais.
Oh!
Ouais.
Ouais. Oh, wow. Ben, ça, c'est un vrai ami. C'est...
Oui, oui, c'est... on est amis depuis 1987. Fait qu'on recule quand même de 32 ans, 31 ans. Là.
Ben oui.
Fait que, ouais.
Oh, oh. OK, c'est... non, mais là, l'histoire de le fameux massacre de Saint-Jean-Baptiste vient d'avoir une signification vraiment.
Ouais. Puis, et d'ailleurs, par rapport à ce match-là, Il y a un, puis là, à ce moment-là, on ne se connaissait pas, puis on ne se fréquentait pas, puis on n'était pas des amis. Sauf qu'il y a un respect qui s'était établi là, c'était que moi, parce que c'était solide, le match-là. T'sais? C'était solide, c'était intense, puis il n'y a pas personne qui braillait parce que tu avais un coup sur le nez ou un coup dans la face.
Oh, ouais.
Par accident.
Oh, oui, c'est ça.
Ça fait partie de la game, là. On est dans le business qui est rough, puis ça vient avec. Eux autres aussi, là, jamais ça se peignait, puis il y a des coups qui ont rentré. D'un côté comme de l'autre, il n'y a jamais eu de plainte. Fait que, veux pas, il y a une certaine éthique ou certain respect qui se bâtit là-dedans, c'est que, non, c'est chapeau. Parce que tu t'en rends compte à un moment donné, « Ouh, t'as pas besoin d'y en donner. » Pas un mot, pas une plainte, pas rien. Et vice-versa, la même chose, les coups rentraient, pas une plainte. Fait que c'est comme, oh, il y a un respect qui s'est établi. Puis on a fait notre temps avec eux, puis après ça, on s'est perdu de vue pendant 2 ans. Puis on s'est revus 2 ans plus tard à la WWE. De là, en partant, il y a un respect. Après ça, toutes les affinités qu'on avait,
c'est ça.
Tout a grandi de là.
Mais c'est ça. C'est comme des amis, des fois, ça fait un an qu'on se voit pas, on se parle pas, puis là, ouais. On se reparle, puis c'est comme si c'était hier.
Tout à fait. Ben lui, c'est comme ça. Là, on s'est vu au mois d'août. Il disait qu'on a servi, on monte cet automne, mais finalement, ça n'a pas donné. Pourquoi? Et puis là, j'ai dit, oh, il y a au printemps. Fait que. Là, peut-être au printemps. Là, il est rendu en Virginie occidentale maintenant. Il est sur le top d'une montagne tout seul. Fait que, ben lui, il a sa
femme. Daniel, il est là, il est comme « Oh! »
Ouais. Ah oui, t'es en haut, puis t'es à 4000 pieds d'altitude, puis tu vois à peu près à 60 km tout le tour. Il est tout seul sur sa montagne. Son premier voisin doit être à 2 km de chez eux.
Ouais.
Fait que c'est la paix.
C'est la paix.
On
c'est
est allé repasser une semaine après les élections il y a un an.
Oh.
Le lendemain des élections, on est parti là, passer une semaine là. C'était cool.
Puis c'était cool, puis ouais. Un bon repos.
Fait que là, je dis, au printemps, peut-être qu'on viendra. Puis là, lui, il passe l'hiver en Floride, ferme sa maison là pendant l'hiver. Il veut qu'on vienne en Floride. Fait que là, ma femme a parlé à sa femme et dans peut-être en février. Moi, j'ai un pay-per-view à Houston en février.
Le Royal Rumble?
Non.
Non.
C'est Fastlane.
Ah, OK.
Royal Rumble, c'est en janvier à Phoenix. Février, on est à Houston.
OK.
Fait que là, j'ai dit, ben là, je regardais, peut-être, si on va là, ben je vais dans le bout de Pensacola, dans le okay. Bon, après ça, j'ai dit, on pourrait passer 3-4 jours. Là, j'irai à Houston, ça ne sera pas tellement loin. Pour ça, je reviendrai. Passer l'autre quelques jours, puis on reviendra. Peut-être que ça sera ça.
Oh, wow. Ah, bon. Oh, ça, c'est bon.
Ouais.
Mais là, on parle de pay-per-view.
Oui.
Mais je vais encore revenir au forum.
Ah ouais,
on s'en est du forum.
Ben oui, ben oui.
Tu sais, tous les beaux fantômes du forum.
Ils flottent encore
au-dessus de la plateforme. Ah ouais. Mais il me semble qu'en juillet 87, là j'étais plus vieille.
Juillet 96, oui.
Non, 87.
Ah, 87, ok, ouais. Oui.
Il y a eu un match. Et une ceinture.
The Heart Foundation.
Oh yeah.
Oui, oui. Ouais.
La ceinture qui a été gagnée.
Oui.
On se pose des questions. Comment ça, après, on avait la télé, elle n'était pas là.
Ouais.
Mais ça, c'est une autre histoire,
ouais, ouais.
Le secret de la lutte.
Non, j'ai une réponse à ça.
Ah, OK. Ben, attends, regarde ta réponse.
Oui, correct.
Moi, là, j'ai capoté.
Oui.
Parce que pour moi, c'était comme, OK, mais là, je prends pour qui, là? Mais là, je prends
ouais,
pour
ouais,
qui,
ouais,
là?
Oui,
c'est comme, OK, là, je capote. Je suis une
femme. Ah, t'as hésité. OK, on va aller.
Non. OK, non. Il me met à la porte, là.
Non, vas-y.
Ben, c'est sûr que...
Bret Hart, tu le trouvais beau, probablement.
Je trouvais beau Bret.
Plus Jim Neidhart?
Mais Jim, c'était comme le mon nom que...
OK.
Mais je savais comme... Anne-Marie Rougeau. Vraiment, mon cœur, j'ai pas pris pour ni l'un ni l'autre.
Ouais.
J'étais quand même Bret à 5 ans.
Ouais.
J'ai fait OK, non. Mais vous avez gagné, ouais. C'est sûr, j'étais contente.
Ouais.
Mais Jimmy Hart avec son...
Mégaphone.
Mais c'était tout un match pareil.
Oui. Ouais, on a eu des très bons matchs avec la Hart Foundation.
Ouais.
J'ai eu plusieurs combats à travers l'Amérique du Nord. J'aimais beaucoup lutter contre eux. Parce que ce qui est fun, là, c'est que quand tu montes sur le ring, tu es capable de livrer la marchandise et tu as transmis des émotions aux spectateurs puis qui ont vécu quelque chose... Pour moi, c'est un succès. Quand même que tu vas faire 50 000 culbutes, puis si le monde est assis, puis il regarde,
ben,
puis les culbutes, ils ont pas voulu rien dire, puis ils ont pas ressenti rien. Bon, c'est beau à voir, ça n'a rien fait. Pour moi, c'est un échec total.
Mm-hmm.
Tu n'es pas obligé de faire 50 000 culbutes.
Non.
Fais quelque chose de crédible, montre quelque chose, puis à la fin, si les gens sont debout, puis ça crie, yes, tu as atteint ton objectif.
Mais c'est ça, parce que les deux équipes, vous avez un work ethic.
Exact.
Puis
exact.
Une passion pour la lutte. Tu sais, vous êtes né là-dedans. Exact. Fait que c'est comme...
C'est pour ça que ça allait bien avec mm-hmm. eux. Et puis, et tu l'as dit exactement, l'éthique de travail était des deux côtés. Et la volonté de faire des matchs, puis on sait qu'il y a une psychologie à avoir sur un ring aussi. Mm-hmm. Tu peux faire les manœuvres, ça te dirait, si tu le fais au bon moment et de la bonne manière, wow, ça a un impact. Mais ça, c'est pas né, inné à tout le monde.
Non, c'est ça.
La Heart Foundation, il y avait ce sens-là. Nous aussi, on avait ce sens-là. Fait que tu mettais les quatre ensemble, les deux équipes, ça faisait quelque chose de magique.
Ouais.
Comme on a vécu quelque chose de magique avec les Rockers aussi à l'époque.
Oui, c'est
Shawn
vrai.
Shawn Michaels, Marty Jannetty.
Oui, oui, oui.
Quand on avait fait la shot avec eux, aussi, on avait pris le mégaphone.
Oui, oui, oui.
On était
rendu
les méchants.
Oui, les méchants, je crois.
Oui. Yes. J'ai eu beaucoup de plaisir.
Oui, méchant, là, c'est comme... Oui. Parce que c'était tellement un baby face, happy face, puis c'était comme... Ah, il est méchant, mais
ah, oui.
C'était prêt, ça.
Oui, mais c'était savoureux.
C'est pas d'être méchant.
Oui, tu peux être beaucoup plus créatif, tu peux te laisser aller, puis en même temps, même si tu tombes, tu te derrière dans le match, puis le monde rit de toi. So what? Tu te lèves, t'es fâché d'être tombé, t'es fâché parce qu'ils sont encore plus... C'est le fun, tu peux être beaucoup plus créatif.
Ouais.
Mais quand on avait fait la chose avec les Rockers aussi, puis avec le mégaphone, avec Jimmy Hart, on a frappé Shawn Michaels, écoute, ça a été bon ça. Puis après ça, ben, on a lutté contre les Rockers un peu partout. On a fait des combats, ils appelaient ça des marathon matchs à ce moment-là. Aujourd'hui, ils appellent ça Iron Man match.
Okay, ouais.
Mais c'est nous qui avons fait des matchs comme ça, commencer dans ces années-là avec les Rockers. On faisait c'était un combat qui allait une heure. L'équipe qui avait le plus de chute après une heure était proclamée la gagnante. Fait que si ça finissait à 2-1 ou 3-1 ou 3-2, whatever, tu regardes le score. À la fin du match, ça finissait, mettons, 2-2 ou 1-1. Puis on allait en période supplémentaire. Sudden death overtime.
Okay, oui.
Et puis on faisait genre 10-15 minutes. Fait que le match durait une heure et quart. Mais pour faire ça, ça prend des gens qui ont une psychologie de match parce que sinon, tu prends n'importe qui fait n'importe quoi au bout de 20 minutes, là,
ouais.
Le monde fait « c'est-tu long? »
C'est ça.
Nous, on finissait des matchs, le monde, les policiers les retenaient aux barricades tellement que ça
voulait être marqué.
C'était « wow! » Ça, c'était le fun. Mais avec les Heart Foundation, on pouvait faire des matchs à ce niveau-là aussi. Parce que Bret Hart, c'était un excellent technicien sur le ring, très bon lutteur. Jim Neidhart, moins.
C'est ça.
Ouais. Il était un peu plus difficile à travailler, mais il complémentait très bien Brett.
Ouais.
Mais Jim, tout seul, t'auras pas le même niveau de match. Mais là, avec Brett,
c'était pas
là, t'arrivais, ouais. Fait que, puis mon frère et moi, c'était un peu la même chose.
C'est vrai.
On avait des styles complémentaires, mm-hmm. mais différents.
Oui, oui, oui.
On avait des personnalités différentes,
mm-hmm.
mais qui se complétaient.
C'est ça.
Lui il était plus flamboyant puis plus excentrique mm-hmm. et tout ça. Puis moi j'étais celui qui était que les gens disent oh, lui il faut faire attention.
Ouais, plus technique aussi.
Hein. Oui oui plus technique, un peu plus robuste, un peu plus solide,
ouais, ouais, ouais.
Plus technique. Mon frère c'était plus flamboyant
mm-hmm.
sur les entrevues pareil. Sauf que tu mets les deux ensemble puis là ça fait un bel équilibre.
Oh oui. T'sais? Puis la chanson, tu sais votre chanson.
All American Boys.
Oh oui. Ah oh! Daniel il faut que je fasse écouter ça.
Il y a quelqu'un qui l'a repris, puis c'est comique. J'ai vu ça sur Facebook. C'est cette semaine, je l'ai enregistré sur mon cell. Et puis, je crois que c'est en Angleterre, ça doit être là, parce que à un moment donné, la fille parle à la fin, puis elle a un accent british
que
je te le fais entendre.
Ben oui, tu vas entendre. Oh non, please. Ouais. Wow.
Ouais. En fait, je l'ai sur l'iPad. Je l'ai juste filmé, j'ai envoyé ça à mon fils, parce que mon fils, on rit tout souvent de ça. Puis, tu sais, en fait, on rit, on chante la chanson.
Ben ça oui.
Là, j'envoie ça. J'ai dit, bon, non, regarde ce que j'ai vu ce matin. Là, j'envoie ça. Il dit, trop fort.
Trop fort. La chanson va avoir un autre succès, là. Qui dit, ça va être une relance de carrière musicale.
Écoute.
Hey, je te dis.
On avait enregistré ça à Sun Records, Sun Studios à Memphis. Puis, on rentre là-dedans. Ça, Vince, nous avait fait voler à Memphis. On avait fait tout un photo shoot cette journée-là mm-hmm. pour faire ça. Puis on était allé en studio, il y avait du temps studio réservé, il y avait Jimmy Hart, Jim Gentry, je pense, qui était son guitariste.
Okay.
Il y avait mon frère et moi. on était rentrés dans le booth avec le studio. Comme tu vois des fois avec les choses, oh, ouais, les écouteurs,
oh, ouais.
On chantait All American Boys. C'est là qu'on l'a enregistré, mais c'est dans Sun Records.
Wow.
Et studio, puis là rentrait Johnny Cash avait enregistré là, il y a des photos dans le studio, Elvis, tout ça. Là, t'avais les Fabulous Rougeaux Brothers.
Made in Quebec.
Oui.
Fait t'as lutté souvent avec Brett. Je suis une fan de Brett.
Oui, c'est correct, ça.
Ben oui, puis j'ai lié d'amitié avec sa fille, Jade.
OK.
Puis.
Ça fait longtemps que j'ai pas vu ses enfants.
Ils ont grandi.
Ben ça doit.
Merci. Maintenant, il est grand.
Ah oui, ah oui.
Ben, mais, tu sais, il y a eu toi, il y a eu Brett, tu sais, oui. Vers la fin des années 80, là. La mentalité un peu, tu sais, des Hulk Hogan,
ouais.
Ultimate Warrior, tu sais, avec le... Pas le drame, mais tu sais, il y a eu une période de stéroïdes, puis...
Oui, 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 oui.
Mais là, finalement, les gars, peut-être moins grands...
Oui.
Plus... Des vrais oui. Techniciens...
Ouais.
Qui ont une psychologie parfaite de du ring, là, de la lutte. Là, il y a eu cet envol-là dans les années 90. Puis là, c'est là que tu as commencé à commenter des matchs. Toi, quand tu voyais, je sais pas moi, tu vois le match Bulldog-Bret Hart
oui.
À SummerSlam, tu commençais, t'es assis, là.
Oui.
Est-ce que dans ta tête, tu disais « enfin ».
Oui. Ah oui, c'est certain qu'en tant que commentateur, il y a des lutteurs que je vais apprécier plus que d'autres. Il y en a que je vais aimer commenter plus que d'autres.
Mm-hmm.
Parce qu'ils ont une profondeur. Ils ont, tu sais... Ils ont de la substance, il y a de la matière.
C'est ça.
Alors que t'en as d'autres, on va dire c'est plus pour le spectacle, mm-hmm. Mais ça n'a pas de profondeur. Je dois les commenter pareil, tu sais, ça fait partie de... Mais il y a eu une petite période où je trouvais qu'il y avait un petit peu moins de talent. Je trouvais que c'était dilué un peu.
Mm-hmm.
Et je te dirais dans le milieu des années 90 un peu, je trouvais qu'il y avait eu une baisse.
Ouais.
Et je me demandais, c'est sûr que l'industrie évoluait, la société change. Une chose que sur laquelle Vince McMahon est super, super prévoyant, lui, il change avec la société. Il n'est pas à la remorque. Mm-hmm. La société commence à changer, puis il voit où ils s'en vont, puis il tombe toujours en avant.
Okay, ouais,
des fois, il y en a qui disent, mais là, il est déconnecté. Donc, ce qu'il fait là, dans 6 mois, ça va être in.
Mm-hmm.
Il est fort là-dessus.
Il est fort là-dessus.
Fait que. Mais je regardais comment ça évoluait, puis tu sais, il y avait un moment donné, il y avait beaucoup moins de temps de match, il y avait beaucoup plus d'entrevues, beaucoup plus d'arrière-scène, puis les gens, ça critiquait beaucoup, puis moi-même, c'est sûr, sur une émission de lutte, on est rendu avec à peu près 17 minutes de lutte sur une émission d'une heure, parce que t'as des commerciaux, t'as des arrière-scènes, des entrevues, mais c'est vers là que s'en allait. J'ai eu l'ouverture d'esprit pour dire, OK, parce que moi... Je trouve que ce n'est pas la voie que j'aurais pris ou je n'approuvais pas nécessairement de la direction. Je suis qui pour dire que ce n'est pas la voie de moi?
OK.
Alors, j'ai eu l'ouverture d'esprit pour dire, OK, bon, je me garde en réserve. Je vais voir. C'est sûr que ça a connu une baisse pendant quelques années. Après ça, puis lui, il s'ajustait aussi. Il est parti de direction. Mm-hmm. Oh, OK, on s'ajuste.
Mm-hmm.
Après ça, ça repartit. J'ai arrêté de faire les commentaires en 2002. Et puis, j'ai recommencé, je suis revenu en 2017,
oui.
J'étais 15 ans parti. Ils m'ont appelé en 2016. Moi, ça faisait 13 ans que j'écoutais plus rien. Parce que les premières années que j'avais arrêté, je continuais à écouter encore,
mm-hmm.
Mais à un moment donné, c'était comme, c'est sûr que j'aime encore ça, sauf qu'il n'y a plus rien pour moi, là. Mm-hmm. Fait qu'en même temps, tant qu'à rester accroché avec le passé, mais ça, j'étais rendu conseiller municipal, j'ai des propriétaires revenus, je me retourne. Je fais juste ma vie d'homme d'affaires maintenant.
C'est ça.
Et là, au bout de quelques années, comme j'ai dit, j'ai arrêté d'écouter. Bon, fait que là, j'ai tourné. J'ai été, c'est 12 ou 13 ans sans écouter. Quand ils m'ont rappelé, en 2016, savoir si je voulais revenir pour être commentateur, ben là, la première question, c'était quoi l'horaire? Parce que, tu sais, je voulais pas être comme avant, là.
Non, c'est ça.
C'était un pay-per-view par mois. Fait que dans le fond, je vais faire un pay-per-view, je suis offre un mois. Puis j'ai mon horaire un an d'avance.
Ah, oui.
Fait que là, je vais l'avoir dans 10 semaines de lieu, je vais avoir un pay-per-view jusqu'à la fin 2019. Fait que moi, mettons, je dis, je vais à la chasse, bon, moi, ça ouvre un mois, OK, ben là, j'ai un pay-per-view là, parfait. Bon, mais après ça, je vais partir à la chasse 2 semaines, 10 jours. Je planifie mon année un an d'avance. C'est super. Fait que finalement, j'ai dit, bon, ben OK, oui, ça m'intéresse, tu sais, puis tout ça. Parce que j'adorais encore le milieu.
Oui, oui.
Une des raisons que j'ai arrêté d'écouter, c'est aussi parce que c'est sûr que ça déchirait un petit peu le fait que j'étais plus là. Là, juste écouter, c'est que ça me garde toujours là, puis c'est toujours un petit pincement
ouais,
pareil.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que j'aimais mieux faire la Cooper et passer à autre chose.
Ouais.
Quand ils m'ont rappelé, OK. Mais là,
il y a un laps de temps là, que tu n'as pas regardé.
Oui, et ça, j'étais très conscient. Fait que, mais, ça, mais le fait qu'ils m'appelaient, ils m'ont appelé 10 mois avant que je commence.
OK.
Parce qu'il y a une des choses aussi, moi, j'avais plus de papier de travail pour les États-Unis. Fait que là, j'ai dit, c'est beau, mais j'ai dit, voilà, vous allez devoir sortir un visa de travail. Mm-hmm. Je travaille plus tard. Ah, OK, fait qu'ils ont mis leurs avocats là-dessus. Ça prend quand même quelques mois. Il fallait qu'ils sortent un visa. Puis c'est un gros travail. Là, le dossier est à peu près 2 pouces d'épais. Là, c'est fou. D'accord. Là, ils ont sorti le papier de travail. Fait que j'ai commencé en juillet 17. Moi, ils m'avaient appelé fin d'été 16. Fait qu'on parle de 10 mois. Mais du moment que j'ai dit oui, puis on dit OK, on embarque nos avocats là-dessus pour travailler avec tes papiers, tout ça. Moi, je ne savais pas. Ça pouvait être dans 2 mois qu'ils m'appellent. Ça fait que là, j'ai commencé à écouter tous les Monday Night Raw, tous les SmackDown mardi. Mais j'ai commencé à regarder. Je ne connaissais à peu près personne. Là, j'ai fait OK, là, je suis vraiment. Puis j'ai quand même un standard que je veux maintenir, une éthique de travail. Si je ne serais pas à la hauteur de ce qu'on attend de moi, j'aime autant ne pas y aller.
Mm-hmm.
Je n'irai pas brûler mon nom. Je vais dire que je suis là, puis ils vont dire il n'y en a rien.
C'est ça.
Fait que je suis allé sur Internet, ils m'ont envoyé toutes les biographies de tout le monde, toutes les notes de chaque lutteur. Là, j'ai commencé à étudier leur biographie, toutes leurs affaires. J'allais sur Wikipédia, j'allais voir toutes les choses sur Internet. J'écoutais tous les événements. Fait que, puis là aussi, j'ai le network, j'écoutais les pay-per-views, fait que j'écoutais tout. Fait que, toutes les semaines, là, fait que j'écoutais à peu près 6 heures de lutte par semaine, en plus des recherches que je faisais pendant 10 mois avant de recommencer. Mais ce que je me suis rendu compte à quelques reprises, c'est que, à un moment donné, je regarde Roman Reigns, mettons, tu sais, moi, Roman Reigns, ça mange pas en hiver, ça, tu sais, bon. Fait que là, je regarde, finalement, j'ai lutté contre son père.
Ah, là, tu fais des liens.
Ouais, ben là, quand je fais des recherches, c'est le fils de. Ah, ben, t'as pas le droit. Il était même pas au monde quand j'ai lutté contre son père. Fait que, dans le temps, il y avait les Wild Samoans, Alpha et Sika, ben c'est le fils de Sika.
Ben oui.
Quand j'ai vu ça, je connais le père. Fait que là, je connais. C'est le cousin du Rock.
Mm-hmm.
Tu sais, là, je commence à faire des liens avec un, avec l'autre. OK, fait que déjà, ça m'a replacé un peu quelques personnes.
C'est ça.
Après ça, ben Randy Orton, son père, c'était Bob Orton.
Ben
je luttais contre Bob Orton dans les années 80 à WWE. Randy Orton, OK, lui, je savais que c'était le fils de Bob Orton. Mais après ça, il y en a eu quelques-uns. Je dis, ah oui, Bray Wyatt, c'est le fils de Mike Rotundo qui était IRS.
Ben oui.
Ben, je luttais contre son père. Ben moi, je vois Bray Wyatt, ça vient d'où? C'est quoi son histoire? Là, c'est le fils de Mike Rotundo. Ben, alors, il y en a eu plusieurs qui c'était des. Ça venait de comme je te disais, de 2e génération ou 3e génération.
Fait que là, ça pique encore plus la curiosité.
Oui.
Comme, OK.
Oui. Puis après ça, comme je dis, au début, ça, tu sais, je voyais des sites, ça parlait Finn Balor, t'as l'affaire, ou tu sais, Chris Jericho. Okay, je ne connais pas, aucune idée c'est qui. Là, je commence à aller, OK, là, je regarde. Mais comme je te dis, là, je me suis tout emmené à jour.
Mm-hmm.
Quand j'ai commencé, je savais qui était qui, d'où il est venu, sa carrière, comment le combat s'est rendu là, tu sais, fait que je suis embarqué.
Mais oui.
Puis la passion, elle s'est. La flamme n'était jamais éteinte.
OK, oui.
Comme je t'ai dit, je me suis détaché de ça parce que mais ça faisait toi, toujours le pincement, je le faisais pour moi, pour passer à autre chose. Mais quand je suis arrivé, là, je remettais du bois sur la flamme. Là.
Oh!
Et je dois t'avouer, mes papiers de travail, ils venaient à échéance là, le 31 décembre, dans un mois. Puis, quand tu sais, c'était droit à sortir les papiers de travail. Puis là, avec l'administration Trump, il a mis certaines mesures en place. C'est plus difficile pour des permis de travail, puis pour ça. Fait que, puis d'ailleurs, quand ils ont mis le papier de travail, c'était marqué que, bon, à la fin, vous pouvez demander une extension, tu sais, ou un. Bon. Mais ils ont dit, parce que vous avez un papier de travail, ça ne veut pas dire que vous allez être accordé votre extension. Tu sais, ça part de même, tu sais. Ça fait que là, depuis... Moi, je leur ai envoyé un avis cet été passé, juste pour vous rappeler, le 31 décembre, les papiers sont finis. Ah. Moi, janvier, là, j'ai un pay-per-view là, aux États-Unis. Là. Moi, si c'est fini là, je vais chez nous. Là. Fait que là, j'ai envoyé ça, ils ont dit, oui, c'est un peu tôt. Parce qu'ils disent qu'on ne peut pas commencer trop d'avance, parce que ça va être refusé automatiquement. Puis, si tu as un refus, après ça, c'est difficile, tu sais, mettre tout. Pourquoi tu as été refusé à trouver ça complet? Fait qu'il y a un timing. J'ai eu, puis là, je te montre pendant que je te parle, le courriel que j'ai reçu cette semaine. Tiens, je te montre. Tiens.
Oh my God!
Hi Raymond, congratulations on the approval of your O1 visa. Bah bon, ton package va recevoir, je l'ai reçu hier.
Wow!
Il est ici d'ailleurs.
Tiens. Mais c'est vrai que c'est.
Ça, c'est rien. Ça, c'est le renouvellement. Ça, c'est le renouvellement. L'original, là, était à peine même. Ça, c'est le renouvellement. Ça, c'est tous les documents qu'il va produire. Oh,
je suis en train de dormir, moi.
Ouais. Puis ça, oh, puis j'ai l'autre partie ici que je te montre. Tiens, ça, c'est la partie qui explique qu'est-ce que je dois faire.
OK.
Et puis ça, c'est le certificat officiel de mon renouvellement. Ça, je dois toujours avoir ça pour moi pour traverser le monde. Même s'il est en mon passeport admis jusqu'à l'échéance, mais un douanier peut arriver, je veux avoir l'original. Okay. Là, je sors ça et regarde. Mais regarde, il est renouvelé, la date, elle est marquée. C'est jusqu'au 31 décembre 2021. Pour 3 ans.
Ouh.
Originalement, quand ils ont sorti mon O1, ça c'est ce que je suis hier, mon O1, c'était marqué les périodes de renouvellement. Après ça, c'est une année à la fois. Fait que je me suis dit, bon, fait quand je suis embarqué dans ce processus, je me suis dit, bon, je suis bon pour une autre année. L'an prochain, on recommence. Toujours pile ou face.
Ben, c'est ça.
Quand j'ai
vu
ça hier.
Pour 3 ans.
Yes.
Oh yes. Raymond est de retour.
Écoute,
oh, sans lui.
C'est ce que je souhaitais vraiment. Parce que j'adore ce que je fais.
Ben oui.
J'adore
mais
ça.
Mais c'est toi.
Oui.
C'est
puis,
toi.
Quand je suis là aux événements, là, écoute, je flotte. Je suis là, je suis dans mon environnement, je suis heureux. J'ai hâte, toujours hâte au prochain. C'est pas comme là, dans les deux semaines de demain, je m'en vais à San Jose. Oui. Table, ladders and chairs. Bon, mais.
Faut qu'on s'en parle de ça.
OK. Bon, ben ça, je m'en vais là dans 15 jours. C'est pas comme, dans 15 jours, il faut que je retourne en Californie. Je suis allé 2 semaines à Los Angeles.
Ben oui.
Il faut que je retourne en Californie. Non, c'est comme. Yes, tu m'envoies nous. Fait que, tu sais, j'ai toujours hâte au prochain. Fait que c'est pas pénible pour moi. Au contraire, à toutes les fois, c'est merci d'avoir la chance d'être ici. Moi, c'est comme ça que je le prends. C'est un beau cadeau de la vie. Ça.
Puis, je pense, encore là, ton éthique de travail a fait en sorte que, regarde, you're still in the game.
Ben, c'est sûr, il aurait pas appelé n'importe qui. Ça fait 15 ans, je suis là. Et on dit, Raymond, aimerais-tu revenir?
Puis, t'étais bon. T'es bon encore, mais crime. T'étais le gars, puis en plus, moi je te mets dans la même lignée que Ventura. Même okay. Vince comme commentateur,
il était très bon. Mansoon. Ben, oui. J'ai fait des commentaires avec Mansoon en anglais.
Oh! Faudrait que j'aille sur YouTube voir ça.
Ouais, tu sais, juste une petite parenthèse, à un moment donné, j'étais à New York, puis j'allais à Stanford en studio toutes les semaines avant. Et puis, pour faire l'émission qu'elle a en France sur Canal+.
OK.
Il y a Canal+, Canal Horizon. Je faisais la France, la Suisse, la Belgique, elle a fait. Mm-hmm. Pendant 13 ans, j'ai diffusé en Canal+, là, toutes les semaines. Mais j'allais à New York faire ça, à Stanford, en fait, dans le studio à Stanford. Puis une journée, j'étais là, puis c'était Gorilla Monsoon avec Lord Alfred Hayes.
Oh oui!
Bon, mais à un moment donné, il y avait un problème d'avion, quelque chose, puis Alfred Hayes ne pouvait pas rentrer. Puis il y avait une émission à faire pour l'Angleterre. En fait, c'était pour toute l'Europe en anglais. Fait que là, ils ont dit, hey, Raymond, ça te dérangerait-tu de rester puis faire le show avec Mansoon? Puis ça, je peux pas. Je suis resté, j'ai fait l'anglais avec Gorilla Mansoon.
Oh! Ouais. Il était comment, tu sais?
Ah, super. Professionnel, très gentil. Très gentil. J'ai déjeuné avec lui. On était au même hôtel, puis on déjeunait ensemble, puis on jasait. Un gars très calme, sympathique, super gars.
Oh, ouais. J'en ai pas. Mais là, vu que là, maintenant, on est parti de 85,
oui.
Remis 90, là on est en 2018.
Oui.
Je vais juste te donner un nom. Charlotte Flair.
Oui.
Becky Lynch.
Oui.
Qu'est-ce que tu penses quand tu entends ces deux noms-là?
Pour moi, ça démontre le niveau que la lutte féminine a atteint. Pour moi, c'est chapeau. Je te dis, regarde, Charlotte Flair, elle a pris beaucoup de galons depuis qu'elle est là.
Oh.
Parce que je l'ai vu quand elle est arrivée. Elle avait beaucoup de potentiel. Elle était bonne, mais elle n'est pas au niveau où elle est aujourd'hui. Là. Et en un an et demi, elle est partie, si tu veux, de bien à très, très bien. Là.
Ouais.
Becky Lynch, elle était très bonne. Mm-hmm. Sauf que, ben, elle était comme... Il a lâché à poids lousse. Là, elle était comme retenue un peu. Par contre, là, dans les derniers mois... Puis ils ont tout fait, ils ont essayé de la tourner vilaine et tout ça.
Ouais.
Et malgré ça, le monde...
Ça
me rappelle un peu notre temps Stone Cold Steve Austin, que lui était anti-establishment, il était contre l'autorité, contre tout, puis le monde l'adorait. Elle est un peu comme ça.
Mm-hmm.
Mais elle livre la marchandise.
C'est ça.
Mais Charlotte Flair, écoute, elle vient d'une famille, écoute, c'est dans son sang.
Ben oui.
Mais... pour moi, c'est comme je te dis, son professionnalisme. J'ai jasé avec elle la semaine passée à Los Angeles.
Oui? Okay.
Et puis, on a parlé justement du New, parce que j'ai parlé le soir avant son match avec Ronda Rousey.
Okay.
On était au même hôtel, et puis elle était dans le gym, puis Charlie, puis était là, puis j'ai jasé un peu. Parlé du match le lendemain, parce que son match, ça ne devait pas être. C'est parce vrai. Que Becky Lynch a été au rencard. J'ai dit, tout un break que tu as là. Elle a dit, je manquerai pas ma chance.
Oh. Tu sais,
ça c'est samedi, c'est dimanche. Quand je l'ai vu, c'était. Wow, c'était à la hauteur.
Ouais, oui.
Fait que ça, ce que je trouve, la belle surprise que j'ai eue quand je suis revenu il y a un an et demi,
mm-hmm.
parce que la division féminine était déjà en plein essor. Depuis un an et demi, ça a encore évolué beaucoup. D'ailleurs, il y a eu pay-per-view Evolution.
Ben oui.
Pas pour rien.
Pas pour rien.
Mon constat, ça a été frappant comment le calibre de lutteuse a changé, et aussi comment elles étaient perçues face à la direction, face à l'organisation. Elles étaient rendues, les filles sont rendues cotées ou respectées ou seront au même niveau que les hommes. Et je suis heureux de voir ça, parce que je les ai vues travailler fort, je les ai vues bûcher. Puis d'arriver à ce niveau-là, et de livrer la marchandise. Pas je dis, OK, on va les monter, parce que, écoute, dans les années 90, on suivait les combats de femmes, c'était beaucoup plus du divertissement
ouais,
qu'autre chose.
Ouais.
Dans le temps de Sable et
ouais,
tout ça, il y avait quelques bonnes qui ressortaient, comme Trish Stratus qui ressortait
ouais,
du
ouais.
lot, Mickie James ressortait du lot.
Ouais.
Il y en a eu quelques-unes qui s'étaient démarquées.
Mm-hmm.
Sauf qu'aujourd'hui, elles se démarquent tous. Et elles sont tous... Ils ont tous le potentiel de devenir des superstars. Pas juste les vedettes, pas mal... Tu parles du niveau de Charlotte et de Becky Lynch, mais je les regarde tous. Il y en a qui ont du chemin à faire encore,
ouais.
Il y en a d'autres. Par contre, ils ont tous le potentiel d'arriver à ce niveau-là. C'est ce que je trouve intéressant, c'est la profondeur de la division féminine.
Puis même la division masculine, ça fait drôle de dire les deux, mais
oui.
Même les gars, il y a comme...
Oui, la même chose.
Même chose.
Tu sais, je t'ai dit, dans le milieu des années 90, je trouvais qu'il y avait eu une baisse, et puis Écoute, moi, je me disais moi-même, là, j'aurais pris deux lutteurs, j'aurais dit, allez, faire un match de, mettons, 30 minutes, là, je serais curieux de voir que ça aurait l'air.
Mm-hmm.
C'est ça, il n'était pas capable.
Non.
Et Ultimate Warrior, on dit, la chose, c'était limité, là.
Rick Rude, là.
Il est assez limité aussi.
Ouais.
Puis il y en avait, à ce temps-là, ben, il était bon, des matchs 10-15 minutes, ça va aller, mais ça s'arrête là.
Mm-hmm.
Là, après ça, j'ai été parti pendant longtemps.
Oh.
Je reviens et je vois ce que je vois sur le dé. Oh boy! OK! Là, c'est comme... OK, c'est intéressant. On retrouve du calibre, la qualité.
Ouais.
Là, c'est comme... Je regarde les matchs qu'ils font, puis je me dis, OK, pas sûr. J'aurais été capable de faire ça, moi, même dans mon prime. Fait qu'il y a eu une époque que je disais... Bon, même rendu à 50 ans, je serais capable de faire ça, là.
Okay.
Tu sais, pas de problème. Je regarde aujourd'hui, puis je me dis, quand je vois des Finn Balor,
oh,
puis
ouais.
je vois des Seth Rollins, puis Dean Ambrose, puis je regarde les matchs qu'ils font. Puis je me dis, même dans mon prime, je suis pas sûr que j'aurais été capable d'être à ce niveau-là. Où ça a changé aussi, c'est que se sont rendus des athlètes de haut niveau.
Oui.
Dans notre temps, c'est nous qui s'occupions de nos régimes, nos façons de s'alimenter, de s'entraîner. On était laissé à nous-mêmes, tu sais.
Mm-hmm.
Je te dis pas que c'était pas correct. C'était ça, à l'époque. C'était
mm-hmm.
correct. Mais aujourd'hui, ils ont des nutritionnistes, ils ont des psychologues, ils ont...
Oh,
il y a des... il y a des masseurs. Tu sais, on n'a pas ça, nous autres. Tu sais? Non, mais tu sais, t'as le plat. Tu sais, le gars, il y a des masseurs professionnels, puis tout ça. Pis...
Oh, wow!
On n'a pas ça. T'as ma mère, tu te rappelles le gros, puis t'allais lutter, tu sais. Aujourd'hui, c'est rendu comme les sports de haut niveau professionnel, tu sais. Mm-hmm. Fait que, ils ont des, comme je te dis, ils ont des psychologues qui ont besoin, ils ont besoin d'être emmenés au niveau. Puis les nutritionnistes qui font leur diète selon la personne, ici et ça.
Oh, wow.
Puis les gars sont là-dessus. Tu prends comme Seth Rollins, c'est un obsessif du fitness.
Mm-hmm.
Mais c'est un gars, tu vas embarquer sur le cardio, il va faire un match d'une heure, puis il n'est même pas essoufflé, là. Non, mais tu sais, c'est fou, le cardio. J'ai jamais eu ce niveau de cardio-là. Alors, de là, pour moi, c'est le fun.
C'est
que c'est comme, waouh, ça, c'est encore une coche plus haut.
Ben ouais.
C'est intéressant à voir. Puis, monsieur, madame, tout le monde, c'est pas ça. Là.
Non.
T'es même pas dans la couche, là.
C'est pas ça à la maison.
Non.
C'est pas ça à la
maison. Fait que c'est ça, je trouve, autant du côté des... Ben, on parlait des femmes, autant du côté des hommes, c'est comme tout un autre niveau. Et le... Une chose que je pense qui a contribué à ça, c'était leur Performance Center,
ouais.
NXT. Fait que le Performance Center, ils sont partis là.
Mm-hmm.
Autrefois, ce qui est arrivé, dans la période creuse, là,
ouais.
Ce qui explique un peu ça, c'est que Vince, dans sa quête de conquérir le monde, ce qu'il a fait, c'était bien pour la WWE et pour ceux qui ont pu bénéficier de cette chance-là d'être là, mm-hmm. comme nous.
Mm-hmm.
Mais avant, tu avais peut-être 100 territoires aux États-Unis où ce que les gars pouvaient aller lutter puis prendre l'expérience. Tu commences, tu vas dans, exemple, tu vas lutter dans le bout de la Louisiane, tu passes un an là, tu prends l'expérience.
Okay, ouais.
Après ça, tu peux aller dans les plus gros territoires. La WWE, ils ont conquis le monde, mais ils ont tout tué ces territoires-là.
Ouais, c'est ça.
Fait que là, tu n'avais plus rien pour la relève. Fait qu'à un moment donné, ils s'en ont rendu compte parce qu'il restait toujours des anciens. Puis ça, mais à un moment donné, que les anciens, ça commençait à s'en aller. Il n'y avait plus de relève de qualité, puis il n'y avait pas de place pour qu'ils prennent d'expérience. De là, ils ont parti leur propre école, leur Performance Center, puis ils avaient parti un petit territoire, à un moment donné, dans le Tennessee, dans le Floride.
Okay.
Ils faisaient des shows locaux, mais ça appartenait à WWE pour entraîner, pour faire prendre d'expérience à des niveaux pour éventuellement fournir le main roster. Là.
Ben oui.
Fait que sinon, c'est surtout, il n'y a personne. De là, ils ont parti leur Performance Center, là, c'est sérieux là, quand ils arrivent là. Puis NXT, c'est comme la Ligue américaine, là, OK.
Ben ouais.
Puis de là, t'arrives sur le main roster. Le NXT, là.
NXT, là, faut faire attention. Parce que moi, je pourrais voir NXT.
Ben, c'est... Ben oui!
Même dépasser la
Ligue. Ben oui, mais de là, comme je te dis, quand tu pars de NXT, puis tu sais, il y en a plusieurs qui sont là en ce moment qui ont passé par NXT. Mais quand t'arrives, t'es prêt, là.
Ben, c'est ça.
Tu sais, fait que de là, quand ils arrivent, ils sont équipés maintenant pour fournir la machine. Fait que là, ils ont produit leur école, leur ligue américaine, puis ils ont leur ligue majeure.
Ben ouais.
Ce sont parfaits pour la relève.
Ouais.
Fait, mais de là, c'est pour ça qu'ils ont réussi après des années, si tu veux, de construction. Ils se sont rendus compte du problème, il faut mettre ça en place, puis à un moment donné, on commence à voir le résultat de ce qu'ils ont fait. On est dedans.
Oui, ben c'est ça, on le
c'est
voit.
C'était
que. Mais moi, je pense que là, on dirait que.
Il y a Dolph Ziggler, c'est super
ouais,
bon.
Ben oui.
Tu sais, c'est. McIntyre.
Oui, ben oui.
Mais il a déjà été là, mais il n'y avait pas. Il manquait une petite coche encore.
Puis là, il l'a eu.
Il l'a reparti. Il est revenu avec la coche qui lui manquait.
Ben c'est ça.
Grosse vedette, lui, qui
s'en va. Non, mais moi, je trouve que. Qu'est-ce que tu t'en qu'on a vu? Parce que. Tu sais, il y a d'autres fédérations aussi.
Tout à fait.
Que même moi, je commence à regarder.
Ouais. Un Ring of Honor.
Excuse-moi, mais Ring of Honor, c'est bon, Titi.
Ben oui, c'est bon.
Ah,
ben oui, c'est bon. New Japan Pro Wrestling.
New Japan puis Ring of Honor, il faut faire attention. Moi, je pense que, tu sais, il y avait...
J'avais été approché, pour faire des commentaires. En France, j'avais été approché il y a à peu près 5 ans. C'était un gars de la France qui m'avait appelé, parce que c'était sur un poste, je ne sais plus du moins, du poste français. Il voulait m'avoir comme commentateur, parce qu'il était pour acheter les événements de Ring of Honor et New Japan Pro Wrestling. Oh. Il était pour diffuser les deux. Puis là, ils voulaient m'avoir comme commentateur avec deux commentateurs français en France. Fait qu'une fois par mois, on te fait venir à Paris. On va en studio, on enregistre 3 émissions, 4 émissions.
Mm-hmm.
Puis tu reviens, tu sais. Puis là, ils m'ont demandé, est-ce un problème? Faire des commentaires pour Ring of Honor puis New Japan. Puis j'ai dit non, moi, ça faisait 10 ans que j'avais plus d'affiliation avec la WWE.
C'est ça,
puis j'adore encore la lutte. Puis j'avais vu leur bouleur, j'ai dit, c'est très beau calibre, là.
Mm-hmm.
Fait que j'avais dit oui. Puis finalement, en tout cas, le projet n'a pas abouti.
Mm-hmm.
Fait que ben, je connais très bien New Japan. Puis,
Puis là, il y a comme une rumeur que Cody Rhodes,
ouais.
Peut-être il y a une nouvelle fédération qui va venir.
Oui, possiblement.
Possiblement.
Puis ça il y avait aussi l'organisation de Jeff Jarrett, le GWF, GFW, en tout cas. Global Force Wrestling, GFW. C'est ça. Eux autres, ils voulaient me voir aussi pour commenter pour le français.
Mais tout le monde te veut.
Ouais, mais ça n'a pas abouti.
Mais là, attends 2019.
Non, je ne vais pas aller nulle part.
Non, là, t'es bien. Là, c'est, t'es
de toute
bien.
Façon, moi, je suis sous contrat avec la WWE. Bon,
oui,
je ne peux pas faire des commentaires pour aucune autre organisation.
Exactement.
Puis ça ne m'intéresse pas non plus.
Ben non.
La façon que je suis traité à la WWE, là,
c'est
chez nous. C'est respecté.
Ben, c'est ça.
Puis moi, Vince McMahon, là.
Ouais, comment il est, Vince?
Personnellement, je le considère un ami. Tu sais, Vince McMahon, il y en a qui vont dire que c'est comme si... Regarde, il gère quasiment une multinationale, il gère un gros business. C'est certain qu'il y a des décisions qu'il va prendre, que ça, qu'à l'occasion, ça ne fera pas l'affaire à certains, puis ils vont dire c'est un pas bon aussi, ou ça. Ou des gens qui ont un break, qui sont là, ils font de l'argent, mais ils pensent pas à l'avenir.
Mm.
Et puis, tout à coup, exemple, il arrive quelque chose, leur temps est venu, puis ils se font licencier. Ah là, ils en veulent la Vince parce que hey, je ne peux pas prendre partie, moi, là. Donc, quand tu arrives, toi, dans la tête, tu ne sais jamais quand tu vas être là. Tu fais de l'argent, profite-en. Parce que le jour où c'est parti, c'est fini.
Puis gère ton argent aussi, là. C'est pas n'importe quoi.
Tout à fait. Ça fait que. Mais moi, Vince, c'était super. J'ai appris à connaître beaucoup Vince quand je suis devenu commentateur. Et puis. Au début, j'ai commencé juste à faire des commentaires en français. Après ça, Vince, début des années 90, m'avait impliqué avec l'anglais aussi.
Okay, oui.
Et puis, j'étais pendant 2 ans que je faisais des entrevues live sur le ring.
Oui, oui, je m'en rappelle.
Mais ça, c'était Vince qui voulait que je fasse ça. Puis là, il dit, j'aimerais ça. Il dit, oui, j'ai dit, j'aimerais ça t'essayer sur le ring. Puis ça, tu sais. Puis j'étais à Milwaukee la première fois, c'était avec Doink the Clown.
Oh my God, oui.
Ma première entrevue live, c'était... Là, j'ai fait l'entrevue, puis ça, Vince est revenu, il dit, you're very articulate, t'es très articulé, puis la caméra t'aime. Il aimait l'image, tu sais, Vince,
c'est quoi, oui, c'est vrai.
Il dit, la caméra t'aime, il dit, t'es très articulé.
Ça, c'est
il
vrai.
Dit, il dit, j'aime ça, tu sais. De là, ça a développé, puis j'ai fait plein d'affaires anglais aussi.
Mm-hmm.
Mais j'ai développé une relation avec Vince, parce que quand je faisais une entrevue sur le ring avec Hulk Hogan, l'Undertaker, Diesel, Razor Ramon, Macho Man, Bret Hart. J'arrive pas à être sur le ring. Bon, ben, OK, Rémi, on va faire une entrevue.
Non, t'arrives préparé.
Là, je m'en vais voir Vince, puis Vince, c'est son office, c'est personne qui le voit. Je m'en vais, je connais pas. Puis là, je rentre. Hey, Ray, come on in. Là, ben, OK, fait que là, OK, là, pour l'entrevue, là, ce soir, j'en ai deux. Attends, j'ai Yokozuna avec Mr. Fuji, puis j'ai Lex Luger. Attends, bon. OK, so, what would you like in the interview, tu sais? Là, il dit, bon, est-ce que la tournure, je dirais que tu prennes, je veux que tu t'enlignes vers ça, moi, ce que je veux aller, c'est vers ça, ben ça, OK, parfait. Puis là, j'arrivais avec, mettons, c'était avec Razor Ramon. Là, je l'ai voir Vince, après ça, je dis, OK, là, j'allais voir Razor Ramon. Là, je m'assois avec, je regarde, là, on va faire une entrevue. Puis lui, il savait qu'il y avait un live interview avec moi. Là, j'ai dit, Vince, il veut qu'on aille comme ça. Là, on passait un genre d'entrevue, puis ça. Vince, il dit, quand vous allez être prêt, venez me voir. Là, je faisais l'entrevue, puis ça, je venais voir Vince avec Razor Ramon.
Mm-hmm.
Puis là, on faisait comme l'entrevue avec. Là, c'était son goût. OK, good. S'il y a quelque chose, non, je change telle affaire. OK, parfait. Fait que là, j'avais l'autre. Après ça, je faisais l'autre entrevue. Puis là, il me disait, OK, là, je vais repasser mes choses aussi, parce que t'es là, là, t'es là, tu peux pas
arriver
à l'oublier. T'es OK, bye.
Oui, c'est ça.
Et t'es belle ta carrière. Fait que faut que tu sois bien préparé. Et puis, fait que là, quand on arrivait, qu'on était prêt, là, il me dit, Ray, let me know when you're ready. Puis ça, je suis dans ma bulle, je faisais mon affaire. Puis il dit, I'll advise the truck that you're ready. Puis ça, quand j'étais prêt, OK, Vince, quand tu veux. Fait que là, il me disait le camion, Kevin Dunn, qui est au camion. Kevin, Ray's ready. Là, il dit, OK, after the such, mettons 2 jours, OK, after there, that we'll do the interview. OK, je savais que j'en allais là. J'ai fait ça pendant quelques années. Fait que j'ai développé une belle complicité, une belle relation avec Vince. Et puis, même jusqu'au moment où, tu sais, il y a eu l'opposition Ted Turner, qui avait WCW.
Oui.
Lui a voulu mettre Vince dans la rue. Là.
Oui.
Lui a voulu acheter Vince. Vince, il ne joue pas avant, c'était son bébé qui a monté. Bon, mais je vais te mettre dans la rue là-bas. Puis Ted Turner était milliardaire. Tu sais, lui, l'argent, les Atlanta Braves, quand lui, TBS, TNT.
Il s'en foutait de la rue.
Ben oui, il s'en foutait carrément. Lui, c'était Power Trip. Lui, je vais t'acheter, je ne suis pas à vendre, ben je vais te mettre dans la rue. Lui, il a sorti son portefeuille, il dépassait des millions, puis il est allé voler des vedettes à Vince.
Oui, c'est vrai.
Puis ça, je trouvais ça déplorable. Des gars que Vince a monté, puis qui en a fait des super vedettes, puis qui sont tous devenus millionnaires. Puis après ça, Turner, il sort le portefeuille. Bon, ben, bye Vince.
Mm-hmm.
Fait que, quand ça s'est arrivé, il y avait même à un moment donné, mon frère, puis Pierre Calvoilette, était allé à WCW.
C'est vrai.
Oui. Fait que moi, j'étais commentateur pour la WWE. Là, il y en a qui ont dit, ouais, mais là, regarde, Jacques est parti. Tu peux-tu faire confiance à Raymond? Tu sais, j'ai été approché par WCCW, moi. Ils m'ont contacté parce que là, ils voulaient percer le marché européen en France aussi. Là.
Oh.
Fait que là, ils ont offert de tripler mon salaire. Fait que là, je leur ai dit, jamais je vais me tourner le dos à Vince puis rappelez-moi plus jamais. Fait que là, c'était bon, OK. Fait que moi, quand mon frère est allé, on était à San Antonio, au Texas, sur Survivor Series, quand Chuck Norris était là.
OK, oui.
Bon, mais j'étais au building. Là, j'ai vu Vince, il arrivait. Puis, on parle de station. On stationnait dans le building, il y avait des gros piliers qui étaient là. Je vois Vince descendre la rampe. Fait que mon frère, il venait de partir de WCW. Là. Mm. Je l'avais un peu sur le cœur,
ça. Ouais.
Fait que, là, j'ai dit, Vince, can I have a word with you for a minute? Je peux te parler une seconde? Fait qu'il dit, oui, pas de problème. J'ai dit, on sait que c'est un petit monde, là, comme toute industrie, c'est d'abord.
C'est ça.
J'ai dit, t'es au courant que mon frère est parti, WCW, il dit oui. J'ai dit, je suis convaincu qu'il y en a autour de toi qui vont peut-être douter de ma loyauté face à toi. J'ai dit, moi, je te regarde dans les yeux, là. Puis j'ai dit, tu vois le pilier qu'il y a là? Ça, c'est un pilier qui t'a gros, qui tenait soutenait le Colisée, là. J'ai dit, moi, je suis aussi solide pour toi que ce pilier est solide pour le building qu'il y a là. Jamais je vais te démocratie. Puis j'ai dit, je vais te le dire. Ils m'ont approché, puis ils ont offert un triplé mon salaire pour aller là. J'ai dit, je te dis pas ça pour de négocier quelque chose.
Non, non.
J'ai dit, je suis très bien traité. Moi, c'est merci. Je te dis simplement ce qu'il y en est, et je leur ai dit de ne plus me rappeler. J'ai dit, je te resterai toujours loyal, tu n'as jamais t'inquiété de moi. Fait que si quelqu'un disait, Raymond, casse-toi pas la tête pour Raymond.
Mm-hmm.
Ben, il m'a pris dans ses bras, il m'a serré, il dit, Raymond, merci, j'aimerais savoir plus de gars comme toi. Fait que c'est une amitié.
C'est ça.
Qui s'est développé. Puis, à un moment donné, en 97, à un moment donné, en 97, moi, j'ai eu un divorce à ce moment-là. Nous, on est en train de faire 21 ans, mais j'ai eu un divorce en 97.
Ouais.
Fait que c'est une période un petit peu plus difficile. Mais j'en parlais pas, je faisais mon travail. Mais il y en a qui ont dit, moi, il passe une période un peu difficile. Puis ça, ben, fait que j'étais au meeting de production, on était à pay-per-view au Rhode Island, Providence, Rhode Island. Quand là, on était tous les producteurs, tout ça, puis moi, j'étais là. Quand on arrive, je suis sorti. Fait que Charles, je dis, hey, Vince, how you doing? It's good. Il dit, how are you? Je dis, I'm fine, thank you. Il dit, quand tu vas avoir une chance tantôt, il dit, j'aimerais ça te parler. Bah, je dis, pas de problème. Là, je savais pas à propos de moi, tu sais. Quelque chose. Parfait. Ben, j'ai une belle relation avec lui. Il m'a emmené dans un bureau, dans le building. Puis il dit, j'ai entendu parler que tu passes une période difficile. J'ai dit oui. Fait que là, il dit, tu m'as parlé. Fait qu'on a jasé un peu, puis tout ça. Puis il a demandé Kevin Dunn, il vient cogner à la porte. Puis il dit, Vince, ça, c'était pay-per-view. Là. On est live à 7 heures. Là.
Okay, ouais.
Il est peut-être 4 heures, 4 heures et demie, 2 heures et demie, 3 heures avant le pay-per-view. Vince, on a besoin de te voir quelque chose. Il dit pas là, il est juste avec Raymond. Il referme la porte, puis il sort. Kevin Dunn, c'est son top, il a le TV. Là.
Ouais.
Fait qu'elle a continué, puis ça. Il a passé, je te dirais, rough 45 minutes, 3-4 heures avec moi. Kevin Dunn, il est revenu au bout de 20 minutes. Vince, please, on a besoin de te voir, puis il dit, je t'ai dit, ma priorité, c'est Raymond en ce moment. Il dit, je ne veux plus te déranger. OK. Là, tu voyais qu'il était stressé. Je dis, yeah, Vince, tu veux y aller? Puis, non, il dit, toi, t'es ma priorité en ce moment. Il y a un pay-per-view live à travers le monde, en une couple d'heures. Il dit, t'es ma priorité.
Wow!
Kevin il est venu une troisième fois, parce que là, c'était urgent. Là. Quand il sort après capoter l'autre bord, il dit Vince, il dit, j'ai dit de ne pas me déranger.
Oh mon Dieu!
Puis ça. Fait que, Vince, on est pogné quelque chose. Il dit, on est live dans quelques. Il dit, ma priorité, c'est Raymond.
Trois
fois. Ouais. Là, il est ressorti. J'ai dit, Vince, vas-y. Puis, là, il est arrivé, regarde. Il m'a donné son numéro de téléphone privé chez eux. Prends ça. Il dit, t'as besoin de parler, que ce soit le jour, la nuit, 3 heures du matin, whatever, appelle-moi. Ben, je dis, merci, Vince, je t'appellerai pas, regarde, je te dérangerai pas. Prends mon numéro, t'as besoin, tu m'appelles. Ça, c'est son numéro dans sa chambre à coucher chez eux. Là. Il dit, appelle-moi chez nous, t'as wow. besoin de parler, appelle-moi. Ben, je dis, merci, Vince, j'ai jamais oublié ça. Je l'ai jamais appelé.
Bon, moi, c'est...
Ben, j'ai jamais oublié ça, le côté oh. humain de ce gars-là, puis qui a été bon. Puis à un moment donné, au cours de ma carrière de commentateur, on avait perdu temporairement le contrat français. Il n'y avait plus rien de français. Puis là, ils ont dit, Vince, on fait quoi, Crémont? Tu sais, tout ça. Moi, j'avais un contrat, mais dans le contrat, c'est, ils peuvent mettre fin quand ils veulent, parce que s'il n'y a plus quelque chose, ben, ils mettent fin. Mm-hmm. Vince, il m'aimait beaucoup, puis il avait apprécié ma loyauté.
Mm-hmm.
Il dit, Ray can speak English. Il dit, bon, mais gars, fais-y faire des entrevues pour Montréal, parce qu'on passait en anglais à Montréal.
C'est vrai.
Et à un moment donné, il y avait 2 entrevues de 2 minutes par semaine. Il me faisait voir aux États-Unis pour aller faire 2 entrevues de 2 minutes en anglais pour que ça passe à CFCF3 à Montréal, à ce moment-là. Et il dit, peux pas là, fais-y faire 2 entrevues à Montréal, toutes les TP. Et tu trouves aussi quelque chose.
Oh, ouais, ouais.
Fait que j'ai wow. jamais oublié ça. Tu sais, fait que,
ouais,
c'est ça. Fait que quand tu me dis quelle sorte de gars, ben pour moi, là, c'est mon ami.
Mm.
Là, ce que je trouve plus difficile, depuis que je suis revenu, je l'ai vu 2 fois. Puis, il est tellement dans sa bulle, tellement dans sa affaire. Je l'ai croisé, on était à Dallas, mon premier jour. Puis là, je rentre, puis il était dans le building, puis il regardait la caméra, puis il regardait l'affaire, puis il descend dans sa bulle. T'sais. Puis, mis à passer, il est toujours dans une pièce, tu ne peux jamais le voir, puis il garde du corps à la porte, là, essaye pas de passer.
Oh mon Dieu!
Tu passes pas, c'est 26 heures juste, puis il garde du corps à la porte, puis il n'y a personne qui voit Vince. Sauf, mettons, sa Triple H, sa fille, son garçon, ou Kevin Dunn. Ou, mais Vince, il est là avec ses écouteurs, puis lui, c'est lui qui rentre tout. Fait que je l'ai vu 2 fois depuis que je suis revenu. Mm. Mais quand je l'ai vu, c'était le premier show que j'étais revenu. Quand je l'ai vu, je suis passé dedans, c'est comme il était là. J'ai dit, hey Vince, how you doing? Puis il était, puis il regardait ça. Oh, I'm doing great. Je suis avec Jean-Vincent. Et il dit, I'm doing great. Fait que j'ai dit, it's nice to see you, Vince. Ça fait 15 ans qu'on s'était pas vu. Fait que il dit, oh oui, it's nice to see you too, mais je voyais qu'il était pas là. Là, j'ai fait ça. J'ai dit, hello, Vince. Il dit, Ray!
Oh!
Ah, il était content, puis là, ça a été fun.
Ah, oh, qui ouais.
Je t'avais pas reconnu. J'ai vu ça. Fait que là, il me dit, t'as pas changé. Ça fait 15 ans, tu sais.
Ah, oui.
Les cheveux blanchis un peu.
Oui,
il dit, t'as pas changé pendant tout. J'ai dit, toi non plus. Fait qu'il dit, tu comprends l'anglais?
Oui.
Il dit, we're both lying to each other right now.
Yes!
Oui. J'ai dit, yes, we are, Vince. Oh, j'ai dit, good lies.
Dit,
fait que là, il a ri, parfait. Fait qu'après ça, j'ai dit, je te laisse continuer tes affaires. Puis, à la fin de la soirée, je l'ai recroisé. Il dit, Ray, qu'est-ce que t'as pensé? C'était Strowman contre Roman Reigns,
okay, l'ambulance. Oui, oui, oui.
Et il dit, hey, Ray, what do you think about it? Qu'est-ce que t'as pensé? Ah, c'était bon. Lui, il était là 3 heures du matin. La nuit avant, après de travailler ça, on était rendu à minuit le lendemain. C'était une machine, ce gars-là.
C'était une machine.
Mais là, il était venu me voir avec. Mais ça, je l'ai vu 2 fois depuis un an et demi. On ne le voit plus. Il arrive, il ne sort jamais. Puis, il est le premier arrivé, le dernier sorti.
Oh,
puis,
wow.
Quand je me suis présenté en 2002, ça faisait 6 mois que je ne travaillais plus. Là, ouais, c'est ça, 6 mois, parce que l'élection, c'était à l'automne. J'ai fini en février 2002. À l'été, mois d'août à peu près, au septembre, ils ont eu un show à Montréal. Je suis descendu, parce que c'était tapé.
Oui.
Je voulais aller voir Vince. Je voulais aller le saluer. Moi, je suis descendu au Centre Bell juste pour aller dire bonjour. Fait que je suis arrivé là. Ray, comment ça va? Il m'a fait un câlin, tu sais. J'ai dit, un gars, là, je me présente aux prochaines élections municipales. Oui. Il dit, y a-tu de quoi je peux faire? Avez-vous besoin de financement? Quelque chose? Tu sais, j'ai dit, non, on est correct. Je suis pas venu te demander. Non, j'ai dit, on est tout correct. N'importe quoi. Des fois, tu sais, dans la campagne électorale, j'avais besoin de financement. J'ai dit, on est tous corrects. J'ai pas besoin de
mais
rien.
Je pense que c'est ça qui apprécie avec toi. Hein.
Ouais.
C'est comme, je peux me fier sur Ray,
ouais.
Mais tu sais, c'est pas un gars qui va se servir de moi.
Pas du tout. Ben non. J'ai dit non. Puis il dit, ah, si t'as besoin, tu me le dis. J'ai pas osé aller. Je suis venu, puis je leur dis bonjour. C'est tout. Fait que, en tout cas, que ça, c'était cool.
J'ai le goût de pleurer, mais je me retiens parce que j'ai mis du mascara.
Mais c'est le genre de relation que j'ai eu avec Vince McMahon.
Wow, ça, c'est
puis
beau.
Quand j'ai quitté, c'était impensable. Tu sais, j'ai donné une notice de 3 mois, ce qui je vois. Puis, tu sais, les gars, actuellement, sont tannés, donnent une démission de 2 semaines. Tu fais des choses de bouquet, il n'y a pas mon problème, je te donne 2 semaines, je m'en vais.
C'est okay.
Moi, quand je l'ai rencontré après SummerSlam 89, pour lui donner une notice pour finir Survivor Series.
Mm.
3 mois. Et là, lui, il voulait je reste. Il voulait m'offrir la lune pour rester. Il dirait, donne-moi une semaine, il va te faire une proposition, je ne peux pas refuser. Il dit, je ne veux pas commencer ce que je voulais faire avec vous autres. Et en tout cas, j'ai dit, vite, c'est plus une question d'argent. Ici, c'est une machine que tu roules, je n'étais jamais chez nous. Je suis chez nous 5 jours par mois.
Mm-hmm.
Le reste, j'étais dans les jets partout à travers le monde. J'ai dit, je m'en aller chez nous. J'ai dit, je ne le cacherai pas. Moi, la business, j'adorais ça, mais c'était un véhicule pour m'amener une indépendance financière aussi,
mm-hmm.
pour dire, je ne suis plus dépendant de rien financièrement.
Mm-hmm.
J'ai dit, je l'ai atteint, j'ai même dépassé mes buts. Fait que j'ai dit, I just want to go home. J'ai dit, j'espère que tu peux respecter ça. Ben, il dit, écoute-moi pareil, donne-moi une semaine, moi je vais respecter. Encore, fait que j'ai dit, bon, fait qu'il voulait absolument me faire une offre. J'ai dit, bon, OK, il m'a donné une semaine, mais j'ai dit, je veux m'en aller chez nous.
Mm-hmm.
J'ai dit, moi là, j'ai 2 mots pour toi. Thank you.
Mm-hmm.
C'est ça, j'ai dit. Moi, c'est juste thank you. Merci pour la chance d'avoir pu venir ici. Merci
ouais.
pour tout ce que j'ai vécu. C'est juste. Merci. En anglais, je dis thank you. C'est rien que ça que j'ai à dire. Il est là comme, c'est pas de même que ça se termine d'habitude. Moi, c'est
yeah.
merci. Fait que, là, Pat Patterson était là, puis il disait,
oh,
Pat,
oui.
il faut que je trouve une façon de le garder. Fait que, cette nuit-là, j'ai pas dormi la nuit. Puis le lendemain matin, ben, de pas dormir, pas vrai. Je m'endors. Chaque fois que je m'endormais, je me réveillais, j'étais sur la route encore, mais. Comment se fait? Je voulais m'en aller chez nous. Comment se fait que j'étais encore sur la route? Tout à coup, je me réveillais. Oh, OK. Quand je me rendormais, c'était encore la même chose. Là, je disais, non, je peux pas. Là, fait que j'ai appelé sa secrétaire le lendemain matin.
OK.
C'est Raymond, toujours. Dis à Vince, je sais qu'il va offrir la lune et tout ça. J'ai dit, dis-y, je veux juste m'en aller chez nous. Je veux qu'il respecte ça.
Mm-hmm.
Je voulais même pas qu'il me fasse d'offre. Pour ça. Là, je veux juste m'en aller chez nous. Fait que là, ils sont arrivés. Là, la semaine après, il ne m'a pas fait d'offre, il dit, ça faire. Raymond, aimerais-tu ça faire des commentaires? Ben, j'ai dit, ça dépend, c'est quoi l'horaire? À ce moment-là, c'était 1 journée par 3 semaines.
OK.
Bon, ben, c'est 17 fois par année. 17 jours par année, il faut que je travaille. Là, c'est parfait. Je reste dans le milieu que j'aime.
C'est
sans être toujours parti, je vais toujours être chez nous.
Puis tu vois ton fils grandir.
Oui, ben, c'est ça, chez nous. 20 jours, je pars une journée, ben, je suis parti 2 jours, je reviens 19 jours, je repars 2 jours, je reviens 19 jours, je suis tout le temps chez nous.
Mm-hmm.
Ah, j'ai dit ça, je peux vivre avec un horaire de même. Ça a commencé
comme ça.
Après ça, ils ont aimé ce que je faisais. Ils m'ont appliqué un peu plus. Après ça, ben, c'était 1 journée par semaine à New York.
Mm-hmm.
Mais j'ai développé le goût à ça aussi.
C'est ça.
Là, c'était correct.
Ben ouais.
Puis c'est de là que j'ai fait 13 ans.
Ben oui.
Ouais, puis là, je suis revenu.
T'es revenu là.
What? Comme ils disent, comme dans le film, just when I thought I was out, they pulled me back in.
Oh oui! Raymond, je vais te laisser avec une dernière question. Mais 2 questions.
Oui.
Quel legacy ou quel héritage t'aimerais laisser, un, à tes co-citoyens à Rodden?
Oui.
Puis l'autre, c'est la même question pour, dans le monde de la lutte, à du monde, à des gens comme moi qui voudraient devenir la Raymond Rougeau féminine. Je peux-tu être un de tes disciples? Peut-être mon mentor. Et après, j'ai une petite question surprise pour toi.
Parfait. L'héritage que je voudrais laisser face aux citoyens, face à ma carrière politique, admettons,
ouais.
que j'ai été un gars intègre, j'ai été un gars qui a été dévoué, impliqué, et puis qui a toujours respecté sa parole, et qui n'a jamais fait de fausses promesses.
Mm.
D'ailleurs, en campagne électorale, les gens vont te demander souvent, « Bon, mais c'est quoi que tu vas nous promettre? Pourquoi on voterait pour toi? » J'ai dit, « Ce que je vous promets, je vais être accessible et je vais être disponible. Vous avez un problème? » J'ai dit, « Mettons, vous avez un litige avec la municipalité, vous avez un problème. Moi, je suis votre conseiller municipal, appelez-moi, puis je vais voir ce que je peux faire pour vous éclairer, vous diriger, vous aider dans votre dossier. Je serai toujours disponible pour les citoyens. » Fait que, mais j'ai dit, « Je ne vous promettrai pas, moi, asphalter votre rue, puis je vais faire ci, je vais faire ça. » Ça, c'est des promesses que je ne pourrais peut-être pas livrer.
Mm-hmm.
Alors, j'ai dit, moi, une fois que ma carrière politique va être terminée, je serai toujours résident et citoyen de Rodden. Pour moi, c'est important que je croise quelqu'un sur la rue qui ne dira pas, toi, tu m'avais promis quelque chose, tu n'as pas livré. La promesse était d'être disponible, loyal et intègre.
Wow.
Fait que ça, c'est mon côté politique.
Oh, ouais.
Côté de lutte, j'aimerais que les gens se souviennent de moi comme avoir été quelqu'un qui s'est donné à 100%, je dirais l'expression 110%, mais c'est impossible. Tu sais, déjà, je me suis donné à 110%, c'est impossible. Mais je me suis donné à 100%. J'ai adoré mon métier, j'ai respecté mes fans, j'ai respecté tout le monde qui a été impliqué de près ou de loin, parce que c'est grâce à tout le monde alentour, si j'ai réussi à faire une carrière grâce aux fans, aux spectateurs qui sont venus à la lutte, que j'ai pu gagner ma vie. Et ça, j'en suis reconnaissant. Fait que, regarde, quand tu m'as envoyé le message, je me reçois une entrevue. Regarde, ça, j'ai pas hésité, hein, ça m'a fait plaisir. Parce que je suis reconnaissant. Tu sais, j'essaie de redonner un peu ce que j'ai reçu. Fait que, puis, en fait, c'est d'être honnête envers les personnes, de ne pas se servir des gens, c'est d'être vrai.
Ouais.
Et quand j'ai quitté, et de là, ça revient à la question, une des raisons que j'ai dit à Vince que je quittais aussi, c'est que j'étais plus blessé dans les 3 années et demie que j'ai lutté à la WWE. J'étais plus blessé que les 15 ans avant ça, à cause de l'horaire qu'on avait, le jet lag, on n'avait jamais de temps off, nous, cette année.
Ouais, c'est vrai.
Fait que le corps, il a goûté. Mettons, sur 3 ans, j'ai lutté 1 an et demi à supporter des blessures. Mm. Lutter blessé pendant 1 an et demi. Puis, des bonnes blessures. Je ne parle pas d'une foulure, là. Je parle des bonnes blessures. Tu as des brises avec des tiges. Tu te tapes le genou, tu sors la sueur avec la douleur, tu t'en vas lutter, là. 1 an et demi sur les 3 ans et demi, comme ça. Ça, c'était une des raisons. Et qu'est-ce que j'ai dit à Vince? J'ai dit d'ailleurs, j'ai été plus blessé dans 3 ans et demi ici que 15 ans avant ça. Puis je pense à ma santé aussi. Puis j'ai dit, je pense aux fans. Parce que jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin, j'ai donné et je donnerai mon 100%. Mais je suis rendu à un stade de ma vie que je pense que je ne veux plus donner ce 100%. C'est trop exigeant sur le corps. Puis je vais en avoir les séquelles, je vais en payer le prix plus tard. Je ne veux pas m'amasser à 40 ans, puis être en chaise roulante, puis marcher avec une canne à 45 ans. Là, j'en ai 63, puis je m'entraîne encore. Pourquoi?
Parce que 63?
J'en ai 64 en février.
Ça ne paraît pas.
Merci. Mais tu vois, je suis au gym 6 jours par semaine, j'ai une belle qualité de vie. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté à 34 ans. Si j'avais conçu à 40, peut-être aujourd'hui, tu viendrais voir, puis je serais marcher avec une canne. Puis alors, à ce moment, tu remines, tu vas y aller. C'est mon téléphone.
Ah, il n'y a pas de problème.
Fait que j'étais plus prêt à donner ce 100%-là parce que, comme je dis, mes objectifs financiers étaient atteints.
Mm-hmm.
Ma carrière, j'avais été au-delà de ce que j'aurais souhaité quand j'ai commencé. D'avoir atteint la WWE et les hauts niveaux qu'on a atteints, puis le sommet. Moi, j'étais comblé, là. J'étais heureux. Je ne suis pas resté sur mon appétit, sur ma carrière. Moi, c'est comme merci. Là, je vais continuer ma vie, profiter de la vie. Fait que c'est soit entier. Soit-il, tes fans, moi j'ai toujours dit, les fans, là, ils travaillent dur pour leur argent.
Ouais.
Ils payent des billets pour venir voir. Bien, ils ont payé 100% de leurs billets. Bon, bien, donne ton 100%.
Ouais.
Et puis quand mentalement, physiquement, je pouvais le faire encore, c'est mentalement, je commençais, puis malgré moi, à sentir qu'à un moment donné, le petit excédent que tu dis, le haut risque, je veux juste aller en bas de ça,
ouais.
Je veux plus me blesser, là. Bon, bien là, je pense qu'il est temps de dire, laisse la place à quelqu'un d'autre qui va donner son 100%. Fait que c'est d'être honnête envers le public qui vient nous voir.
Je vais pleurer, là, je vais pleurer!
Non, puis il y a une autre chose aussi, c'est que, tu sais, il y en a qui s'imaginent que, dans le milieu comme du sport professionnel ou de la lutte, il y en a eu beaucoup, que, ben, tu sais, pour réussir, il faut que tu sois ses stéroïdes, il faut que tu prennes des choses. Ça, je peux te dire, je peux te jurer, dans le temps que j'étais là, c'est sûr que je voyais plein de gars, c'était rampant. Je peux compter sur une main ceux qui l'étaient pas, probablement, à l'époque que je luttais, les années 80.
Ouais, ouais.
J'en faisais partie de ceux-là.
Ouais.
Dans ma vie, j'ai jamais pris de stéroïdes, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, j'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais... Et puis j'ai fait une carrière internationale avec des gens qui se boostaient artificiellement et tout ça, mais avec le travail dur et la discipline et la volonté. Il y a beaucoup de gars aussi qui se ramassent après leur carrière avec des dépendances aux antidouleurs et tout ça. Mm-hmm. Tu sais, je t'ai expliqué, j'allais lutter, là. J'allais le rein, la sueur coulait avec la douleur. Je prenais même pas de Tylenol.
Oh my God!
Fait que j'allais lutter. La douleur, je l'avais. Puis je luttais avec. Mais c'est une discipline. Fait que c'est juste de dire, faut tu crois en toi. Et t'es pas obligé de prendre des raccourcis pour essayer de faire des choses. Le travail dur, ça rapporte. Et à long terme, t'en es gagné.
Ouais. Ouais.
C'est un peu, tu sais, ce que j'aimerais laisser en héritage ou en exemple.
Parce qu'il y en a malheureusement qui sont plus là. Puis, tu sais, oui. Toi, tu vois la liste, tu sais, comme tes confrères, comme.
Plein. J'y voyais, j'ai dû en voir tomber une gang. C'est à moins de mourir d'un accident ou d'autre chose, mais j'ai dû en voir tomber.
Puis, ont...
Plein, des Kurt Hennig, The Ultimate Warrior, Road Warriors. Kurt Hennig, Mr. Perfect, oui. Rick Rude, Ravishing Rick Rude, British Bulldog, David Boy Smith.
Ah, ouais.
Il y en a plein. Ça pourrait être 39, 40,
mais
41.
Mais c'est ça.
Comme tu dis, j'ai 63, je vais 64 dans 3 mois. Puis,
je t'es comme plus en forme que...
Oui. Oui.
Dernière question. Mais là, j'en ai une, mais...
Vas-y.
Dernière question. Dernière question. Owen Hart.
Oui.
As-tu une anecdote à raconter que tu as vécu avec Owen? Qu'on partage la même date de naissance.
Ah oui?
Ah oui, j'ai écrit une chronique sur Lutte Québec de mon histoire avec Owen dans un gala de lutte à Montréal en 97. Je l'ai touché l'épaule, puis j'étais comme, tu sais, oh my God, Owen. Puis peut-être c'est dans ma tête, mais je pense que c'est vrai.
Ouais.
Il s'est retourné, puis je sais pas, on s'est comme regardé, il m'a fait un petit clin d'œil.
Oh, bien
j'avais,
sûr, bien sûr.
J'avais peut-être une phase de...
Non, mais peut-être qu'il a fait le contact,
il a reconnu le contact.
Puis là,
j'ai comme, tu sais, ça m'a marqué.
En fait, des anecdotes, non, je sais que c'était un gros joueur de blague. Ouais. Owen, c'était un gros joueur de tout. Un gars qui avait un bon fond, il avait un bon cœur, ma petite fille.
Oh my God!
Il avait un bon cœur, c'était vraiment une bonne personne. Sauf que, dans ma carrière, quand j'étais à WWE, on était pas interliés, puis on voyageait pas ensemble.
Okay, ouais.
Sauf que je le voyais dans le vestiaire. Mais ce que je peux dire, Owen Hart, c'était un maudit bon gars. Tu sais, quand on parle, des fois, il y a des gars que je peux dire, j'appréciais pas tant que ça dans le business. Tu sais, t'as pas des gens que j'aurais côtoyé ou que j'aurais fréquenté, ou que même politiquement correct, je pourrais juste saluer, tu sais, mais que j'aurais pas fréquenté. Owen Hart, et bon gars. Bon fond. Il y a une journée, on était à un hôtel, j'étais commentateur à ce moment-là, puis il était à la piscine, puis avec sa femme, et puis j'étais descendu en bas, puis en tout cas, je suis venu m'asseoir avec eux autres, j'ai jasé une heure avec eux autres, lui et sa femme. C'était peut-être un an et demi avant qu'il meure.
Okay.
Et puis, un gars simple, un gars des bonnes valeurs, les deux pieds au sol, bien ancré, pas quelqu'un qui se perd dans son personnage.
Okay, et tout ouais, c'est ça.
Ça, j'en ai connu beaucoup de ça.
Oh.
Beaucoup. Que... D'ailleurs, par exemple, Macho Man.
Bon, oui!
Oh, lui c'en est un. Je l'ai connu en 1973. J'ai lutté contre lui à Détroit, j'avais 18 ans. Il s'appelait Macho Man Randy Savage à 18 ans. Après ça, j'étais à Atlanta en 1976. Lui, il était là. On s'entraînait ensemble. On se connaissait très bien. Après ça, lui, il est allé à WWE avant moi. Moi, je suis arrivé, il était là. Je suis venu le voir. C'était plus le même gars.
Oh non.
Déjà, il était particulier.
Oh ouais.
Il était très particulier. Mais quand on est arrivé à WWE, c'était rendu là, Macho Man. C'était lui. Là. Macho Man, c'est lui. Il se couche le soir, puis bonne nuit, Macho Man. Puis il se lève le matin, c'est bonjour, Macho Man. Fait que quand tu le voyais, il était comme ça.
Là, OK.
Ouais. Fait que de là, encore une fois, c'est que je respecte des gars comme Owen Hart, il avait son image, le King of Hearts et tout ça, mais tu prends Owen Hart, la personne, deux pieds, ça, des deux gars, maudit bon gars. Il faut jamais que tu perdes contact avec la réalité. Une des affaires que j'ai appris dans le business, puis que j'ai resté religieusement avec, là, moi, j'avais été entraîné, il y avait mon père, mon oncle Eddie Auger, Luigi Massera, qui avait été payé pour ça, m'a entraîné pendant 2 ans avant que je commence pour lutter, des choses à apprendre. Lui, il m'avait dit, Raymond, je vais t'enseigner une chose, puis oublie-le jamais. Par rapport à ta publicité, m'avait dit, il parlait en anglais, about your publicity, read it, enjoy it, but don't believe it.
Ah.
Crois pas à ta propre publicité. Mm-hmm. Puis ça, là, je l'ai appliqué à la lettre. C'est pour ça, c'est souvent, au cours de ma vie, des gens m'ont rencontré, un peu n'importe où. Quand t'es bien, tu sais, on t'approche, t'es abordable, on peut te parler. Oui. Tu sais, c'est pas ça. Ça, c'est une image, c'est une carrière, c'est ça. Mais t'es un être humain, t'es une personne. Oublie jamais que t'es une personne. Wow. Et de là que, quand j'ai quitté la lutte, les gens m'ont demandé, ils ont dit, ah ben, ils me disaient, entre tes gars, j'étais jeune, j'avais 34 ans. Ils disaient, mais mon rire, ça n'a pas de bon sens, t'es bien trop jeune. Tu vas... Ils ont dit, je te gâche, dans 6 mois, tu vas être âgé, tu vas supplier Vince de revenir, tu vas t'ennuyer. Alors, ça, c'est en 89, on est rendu en 2018.
Oh, encore non, t'as tout dit.
Ma vie est remplie. Mais la raison pour ça, c'est que y a ces gens-là, la majorité de ces gens-là, ils carburaient à l'attention et le végétariat.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça.
Fait que pour eux autres, c'était. Il était quelqu'un, mais le quelqu'un, il fallait que ce soit sur le ring, puis t'étais. Wow. T'es sort de là, t'es amène, t'es monsieur, madame, tout le monde, il était pas capable de gérer ça.
C'est
moi, je suis parti, c'était merci, merci, merci. Mon Michelino, yes, dans jeans, en sweatsuit, en running. Oh, ouais. Je m'élève de mon lit, je suis heureux. Mm. J'ai jamais perdu ça. Fait. Je pense que ça a aidé pour le fait. Tu sais que ma vie est belle en route.
Non, mais t'as une belle vie. Clément, merci!
Hey,
alors, il faut qu'on fasse un round two, là. Tu sais qu'on parle de tes matchs préférés. Alors, il faut. Puis, sois mon mentor.